J'étais en train de modifier le sommaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de modifier le sommaire. Je vous le remonte d'ailleurs. Eh oui. Voilà. Eh oui. Expédition 33, clair-obscur. On en avait parlé cette semaine. C'était cette nuit. Eh oui, j'avais oublié. Et qu'est-ce que je vois dans le chat? Et je voulais remercier la commu. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? J'ai vu un bravo Sandfall. Et mon esprit est un peu embrumé en cette heure matinale. Mais Sandfall, studio français, clair-obscur, expédition 33, le jeu. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'était cette nuit, c'était aux States. Et je vois une pluie d'articles sur Internet pour le triomphe de clair-obscur. King Julian et Camille me disent 9 prix, 9 récompenses, record. Donc je me suis précipité de vous rajouter ça au sommaire. Voilà. Amis de TikTok, je vous mets le sommaire aussi, comme ça vous saurez. Je l'ai fait il y a 10 secondes. Et ouais, j'avais oublié. On va même commencer par ça. Ce qu'on appelle une fausse ouverture dans le langage télé. Je vous explique ce que c'est, une fausse ouverture. Voilà, comme ça vous l'avez. Et oui, le triomphe de Clair Obscur, Expédition 33, bien sûr. Incroyable. 9 prix. Comment ça va, vous? À propos de jeux vidéo, je vous ai mis le visuel, vous le voyez, du prochain Samplay. C'est l'émission qui explore la culture du jeu vidéo que j'ai lancé il y a 3 ans maintenant. C'est la 3e saison. Alors on en est à la... Bah, je l'ai mis d'ailleurs. Attendez, à la numéro... Je rajoute les 2 premiers numéros qui étaient des tests concluants. Après, on a lancé l'émission. C'est l'émission 73. Le 73e Samplay. Voilà. Avec l'ami Zach Nani, qui vient dimanche au studio pour me faire découvrir le dernier Black Ops, le dernier Call of Duty Black Ops 7. Voilà. On va pas mal parler de jeux vidéo aussi, parce que on a aussi une actu dans les échos, vous verrez, sur l'impact de l'IA sur le jeu vidéo. Après, c'est pas une matinée, c'est un rendez-vous d'actu sur le jeu vidéo. On va parler de Trump, on va parler de la prison en France, de la surpopulation carcérale, on va parler du pourquoi on fait moins d'enfants en France, on va parler d'un article, un très bel article, beau et triste à la fois, dans La Croix, le jour où Nicole est morte, et on parlera donc de jeux vidéo. Voilà, le sommaire de fou. Bon, et on va pas lambiner, hein, parce que j'ai un déjeuner de travail tout à l'heure, donc je vous abandonne vers midi 20, quoi. Vous, ça va, vous? Ouais. On va toujours pas parler d'Edouard Philippe. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai, il a dit des dingueries, chouchou. Ouais. Bah écoute, les... c'est un peu la honte. Oui, alors, oui, il a dit des trucs. Alors, deux choses l'une. C'est intéressant, cette question sur Edouard Philippe. Deux choses l'une. Ou Edouard Philippe, finalement, n'a pas dit tant de dingueries que ça, et peut-être que les gens n'ont pas tout écouté, et les médias se sont dit, ouais, enfin bon, tempête dans un verre d'eau... On est un an et demi de la présidentielle, il n'est pas sûr qu'il soit élu président, chouchou, on ne va pas en faire 10 pages, tu vois. Peut-être que les journaux ont estimé que ce n'était pas si intéressant que ça. Ou alors, et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Edouard Philippe, les mêmes journaux se disent, ouais, mais enfin, on s'en fout d'Edouard Philippe. ce qui n'est pas très bon pour son ego, quoi. Voilà, bon. Voilà, et comme le dit Nix, dire des dingueries et personne ne te reprend. Voilà, c'est ça, c'est... Non, c'est un petit peu un peu de truc, parce que, effectivement, je suis allé voir Edouard Philippe, il a dit des trucs sur... Sur quoi il a dit, déjà? Il a été interrogé sur quoi? Qu'est-ce qui vous a titillé, certains, là, à vouloir parler d'Edouard Philippe, là? Alors que tout le monde s'en fout. Ah oui, la colonisation, voilà. Et effectivement, bah, les médias ont pas trop embrayé, quoi, en mode... Ouais, flemme. Mais, je... Oh là là, vous êtes méchant, hein, Nériad. Même le bad buzz is still buzz n'y arrive pas, ouais. C'est là que je me dis que quand les médias reprennent plus les propos de l'extrême droite, je me fais beaucoup de soucis. Je vais être encore méchant pour Edouard Philippe, et c'est peut-être parce que l'extrême droite, elle a peut-être une chance d'arriver au pouvoir. Donc du coup, les déclarations des représentants de l'extrême droite sont d'autant plus scrutées qu'ils sont en capacité, eux, d'arriver au pouvoir. Les sondages ne disent pas tout à fait la même chose d'Edouard Philippe. Donc, là encore, c'est un peu... C'est-à-dire, si demain, ton voisin se présente à la présidentielle et qu'il dit des dingueries... Ah, je suis méchant avec Edouard Philippe, mais il y a peu de chances que les médias en parlent, quoi. Après, je plaisante à Edouard Philippe, évidemment. plus de chances que ton voisin. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas l'impression que les médias l'envisagent vraiment, quoi. Ouais. Enfin, à suivre. Peut-être qu'ils se trompent d'ailleurs. Merci Ludwig pour ton soutien et ton message. Merci Tangerine Nightmare. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Trop gentil, merci pour le 35e mois. El Fabinho, merci pour le 29e mois. Shamgrat, merci pour le 21e mois. AFRJ, merci pour le 33e mois. Comme Expédition 33, comme par hasard. Voilà. Ah oui, c'était des drôles Zertis, t'as raison, on a bien. Voilà. Merci El Giganto69. Merci pour cette pluie de subs. 52 mois d'abonnement de soutien ininterrompu de la part de El Giganto, Alixiage, mon boys band préféré, merci pour le 41e mois, Buginner, tous les habitués sont là. Salut Sam, t'as vu ce qui s'est passé sur France Info? Non, Bishop, mais ça m'intéresse, tiens-moi au courant, raconte-moi. Buginner, merci Joe pour le raid. Qu'est-ce que faisait Joe en live ce matin? On s'est quitté tard hier soir après un très beau stream avec Tatiana, on a bien rigolé. Qu'est-ce que je l'aime, Tatiana, elle est vraiment cool. Et Joe était en live ce matin, il était sur quoi? Sitôt. Ah, mais il n'était pas justement sur les Awards? Non? Merci. Merci Ticlem pour le 36e mois. Merci, merci Draconian. Du just chatting avec un peu de wow. Mais pourquoi si tôt? Mais pourquoi si tôt? Mais il n'est pas allé dormir ou comment ça se fait? Joe en matinale comme ça? Joe en concurrence? Joe en concurrence? En tout cas, j'ai passé une bonne soirée avec lui, Tatiana, hier. Et c'est toujours un plaisir de bosser avec Joe, mais ça, vous le savez. Ça dure depuis un petit moment déjà. Ah, bon, je vous lis un petit peu là, c'est parler de moi. En tout cas, rendez-vous dimanche hein, dans Simplay, ça va être cool. Et j'espère que vous avez apprécié le stream sur Twitch hier avec Tatiana sur Fortnite. C'est marrant, j'arrive d'une vidéo Lox TV qui réacte sur toi, Samuel. Let's go! Micmac, est-ce que c'est du react pertinent, intéressant? Ou est-ce que c'est du react, je ne sais pas qui est Lox TV, hein. Est-ce que c'est du react en mode, tiens, on va aller faire un peu de stats, on va aller gratter du clic de la vue en lançant en tentant de lancer, souvent ça rate, une polémique sur un contenu. Ça intéresse Micmac, parce qu'on connaît. Raconte-moi Micmac, ça m'intéresse. Ouais, les agriculteurs, on en parle au bout de la plume, bien sûr, avec les vaches, la maladie, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on en a parlé en début de semaine, on suit ce dossier. Bonjour, on ne parle pas des agriculteurs, je viens de répondre, Croque-Doux, bien sûr. Évidemment, j'en ai déjà parlé, tu peux te taper le replay de la revue de presse de lundi si tu veux. Runner plein, bonjour le Samuel, comment va un mot aujourd'hui sur les agriculteurs en Ariège? Iowa, bon matin Samuel, j'espère que ça va, j'aimerais juste qu'on montre notre soutien aux agriculteurs d'Ariège. C'est-à-dire que vous êtes. C'est un. C'est. Alors moi, c'est un vrai sujet. On en a parlé lundi très sérieusement. Et moi aussi, je suis inquiet. Et je partage l'inquiétude des agriculteurs, pour être précis, des éleveurs. Hein, parce que si je dis pas de bêtises, ça touche les troupeaux de bovins, hein, c'est ça. Mais c'est un peu coordonné. Par contre, vous arrivez tous au même moment là. Vous êtes. Ne me dites pas que vous faites comme certains lobbies militants politiques là, qui s'organisent sur des Discord et tout pour débouler tous ensemble derrière un tweet ou parce que ça c'est vraiment on n'en peut plus de ça hein, mais c'est quand même bizarre les trois messages collés là. Mais ça bon maintenant qu'on je parle pas des éleveurs hein, mais maintenant qu'on sait comment ça fonctionne là, les micro-groupes qui s'organisent sur Discord et qui viennent pop sous un tweet 2 jours après le tweet, je sais pas pourquoi, et t'as 30 messages qui disent la même chose. Bon, maintenant on prend ça avec beaucoup de distance. Ça m'étonnerait que nos amis éleveurs fassent ça, quoi. En tout cas, force à eux, parce que c'est vrai que c'est très compliqué et ça crée beaucoup d'inquiétude. Ouais. On en a parlé lundi et on va en reparler, ça c'est sûr. Ouais. Petite info matinale sans intérêt mais qui détend, dit Fabricadon, j'ai appris la blague. On aime les blagues ici. Qu'est-ce qui est invisible et sans la carotte? Ne lisez pas le chat, la réponse est dans le chat. Qu'est-ce qui est invisible et sans la carotte? Vous l'avez ou pas? Ne lisez pas le chat, hein. Le chat Twitch. Vous l'avez ou pas? Non! Ah, vous la connaissiez? Un pet de lapin. Un pet de lapin. Qu'est-ce qui est invisible et sans la carotte? Un pet de lapin. Et donc Fabricadon a appris cette blague à sa fille de 4 ans qui est partie à l'école en moyenne section en ne faisant que répéter cette blague dans la voiture. Je plains la maîtresse, nous dis-tu. Je vais la raconter à mes enfants ce soir. Attends, mais moi je suis nul pour les blagues. Qu'est-ce qui est invisible et sans la carotte? Ah, c'est... Attends, tu sais quoi, je me l'envoie en texto là, comme les vieux là. Parce que là, on voit les bonnes. Les lapins mangent rarement des carottes par ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Céline? Ok, super. Sam. Je vais essayer de la raconter à table ce soir. Qu'est-ce qui est invisible et sans la carotte? Point d'interrogation. Réponse 2 points. Un paix de latin. Oh. Un prout de lapin. Un paix de latin, tu vois. Quand je dis que je ne sais pas raconter une blague. Voilà. Alors les enfants, j'en ai une incroyable. J'en ai une incroyable qu'on m'a racontée ce matin en live. Attends, il faut que je me rappelle, parce qu'elle est compliquée. Attends, oui. Qu'est-ce qui est invisible et sans chou-fleur? Non! La carotte. Qu'est-ce qui est invisible et sans la carotte? Non? Vous l'avez pas? Elle est énorme. Mon amour, tu sais, non? Un pet de latin. Elle est dingue, hein? Un prout de latin. Non? C'est drôle parce que ce matin, tout le monde rigolait. Voilà, ça c'est ma vie, ça. Je ne sais pas raconter une blague. Je ne sais pas. C'est un talent, hein. C'est un talent. Hein. Il y a des gens. Il y a des gens qui. Moi, je ne sais pas. Mon frère, il est très fort. Il est drôle. Mon frère raconte une blague. Tout le monde rit, tu vois. Moi, je raconte une blague. Les gens me regardent d'un air désolé, quoi. C'est un talent, hein. Tout le monde ne sait pas raconter une blague. Je ne sais pas raconter une blague. Je crois que de ma vie, personne n'a ri de bon cœur à une blague, une vraie blague écrite, tu vois, qu'une chute et tout. La blague du son Hitchcore, tu l'avais bien raconté. Non, c'est faux. C'est la commu, ça. Merci Yo-Yo Man. Merci Gnimo. Merci encore Ludwig. Merci Ludwig. Merci. Voilà. C'est la commu, vous dites que vous avez ri ce jour-là, la blague du sandwich corse. Mais nul. Un rire de compassion, voilà. C'est cool de vous lire. Tu connais pas la blague du sandwich corse? Ouais, non, je suis mauvais pour les blagues, les gars. Arrêtez. C'est quoi cette blague corse? Arrêtez. Moi aussi, je t'aime, X-Birdie. Ça fait plaisir, en vrai. Macron est venu à Saint-Malo à cause de lui. Mon car a 1h30 de retard, me dit Tazer. Tazer 35. Bon, bonne ambiance. Bon les amis, on va y aller vite ce matin, hein, parce qu'il y a trop d'actu en vrai. Moi, à midi 10, je vous abandonne là. Dans un peu plus de 2h. Okay. Donc ça va taffer sur l'actu, quoi. J'ai vraiment de belles choses à vous proposer. Hein. Hey, vous avez vu la rigueur, hein. Ça stream le soir, ça se couche tard, ça rentre à la maison, ça lit les journaux, ça dort un peu, ça emmène les enfants à l'école. C'est mon petit plaisir en ce moment. Ils sont trop choux, les pruneaux. Et puis après, ça vient vous lire la presse, quoi, tous les jours. Hein. Salut Alexandra, Mathieu. Ok Alexandra, c'est noté. Dis donc là, la personne qui parlait du React là sur TikTok tout à l'heure, j'ai dit c'était quoi le React? Tu sors d'une vidéo React là? Tu nous as, c'était Micmac je crois, non? Tu m'as répondu, c'était par rapport au Louvre? Découvrir là. Oh, c'est encore du grattage de buzz ça. Attends, c'est encore un grattage de buzz pourri. Mais ces gens là. On est d'accord qu'on est dans ce cadre-là, Micmac, c'est ça en fait. Les gens là, vous savez, qui font du react au contenu des autres pour faire du buzz, pour faire de la stat, du clic, du like, voire de la thune. Ils préféraient pas créer du contenu plutôt? C'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? C'est les mêmes qui copiaient par-dessus l'épaule des petits camarades à l'école? Quand même pas trop trop bossé? Ah, j'ai tellement. Je suis même pas en colère, mais je trouve ça tellement triste en fait. Ah, le pauvre réac là! Tu sais, il y en a qui ont industrialisé ça maintenant sur TikTok, notamment, tu vois, avec des petites attaques bien catchy. Ouais, machin, dit. Tu vois, il y a des mecs qui prennent une voix comme ça. Tu sais pas si. Tu sais, un peu animation de fête foraine, manège, tu sais. Oui, machin a dit ça, et tout le monde en parle, et c'est un scandale, et je vais vous dire pourquoi. Et les mecs, ils font. Oh là. Oh les pauvres! Oh les pauvres! Vous voulez pas créer des trucs plutôt? Hein? Ah là là. Ah oui, et je vous en parle dès maintenant. Ouais, j'ai vu un mec comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Machin a dit ça, et tout le monde est choqué, et je vous en parle dès maintenant. Alors ça, c'est vraiment sur un level industrialisation du truc. Mais il y a des gens qui font la même chose, en façon un peu moins téléphonée, quoi. Alors, oui, alors machin a dit ça, c'est vraiment un scandale, je vais vous dire pourquoi. Ah là là, vas-y, fais des trucs en vrai. Fais des trucs en vrai. Je sais pas, et, je sais pas, et à un moment, essaie d'avoir une idée. Oh les pauvres! Ah. Oh, merci Sugar. Oh les headshots. Pa, 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 pa. Je peux aller voir les historiques pour le plaisir? Eh hey, Sugar, merci pour hier soir. Hein. Je sais pas si. Noctali est là aussi, mais c'était un plaisir, quoi. Elle donne un petit plaisir pour moi. Ah oui, l'historique n'est pas très important. Attends, j'en ai un, j'en ai deux. Ah oui, c'est historique de deux messages quand même. Ah ouais. Ok. Bon, bah, ça fait deux followers en plus. Hein? Enfin, là, ça fait deux en moins, mais bon. Ok. Ah, les petits one tap là. Ok. Bon, ça va, vous? Oh, tu refais bientôt un LOL? Ben, peut-être ce soir. D'ailleurs, Sugar, ce message est pour toi. Ce soir, il y a deux possibilités. Bon, on a beaucoup fait de Skyrim cette semaine, donc à un moment, il va falloir changer. Parce que Skyrim, j'adore, mais changer un petit peu. Alors, ou je fais une petite soirée Valo pour ma pomme, parce que c'est mon jeu, j'adore ce jeu, voilà. Voilà. Enfin, si ça marche, parce que ces derniers temps, j'avais des petits conflits avec Vanguard, là, qui buguait un petit peu. Ou alors, on part sur LoL, avec l'ami Sugar, s'il est libre ce soir. Alors, tous les deux en bot lane, là, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Voilà, pour explorer un peu, comprendre LOL, quoi. Pas pour devenir un bon joueur, mais pour comprendre un petit peu le jeu, quoi. Oh. Est-ce qu'on peut envoyer de la force à un petit Raphaël, s'il vous plaît, dans le chat, dont me parle Lilou, vous savez qui? Ça y est, on est à J-7 de l'intervention de mon petit Raphaël. Il commence à stresser le pauvre. Il avait les larmes aux yeux chez l'anesthésiste. L'autre jour, on le rassure au mieux. Quel âge il a ce petit Raphaël, Lilou, et c'est sans indiscrétion. C'est quoi l'opération? Est-ce qu'on peut, voilà, je vois plein de cœurs qui arrivent. Est-ce qu'on peut envoyer un max de force et de cœur à Raphaël, Lilou? Est-ce que tu peut-être que tu pourras montrer ces petits cœurs, ces petits messages d'amour à Raphaël? C'est une grosse opération. Quel âge il a, Raphaël? Merci pour les cœurs, vous êtes cool. Je vois plein de petits messages sympas. Vous êtes trop chou. Ok, c'est cool. Et merci, merci pour les messages que je lis pour Raphaël là. Ok. Oh, le TikTok, vous voyez pas, il y a une pluie de cœurs dans le chat Twitch. Allez, faites péter les cœurs, TikTok, bordel. Ouais, merci. Allez, voilà, petite fée, merci beaucoup. Lilou, il t'a remercié d'ailleurs pour ton message, Sam, il était trop heureux de ton soutien. Il se fait opérer de reprise de greffe de peau sur les deux pieds, grand brûlé, il a 11 ans. Voilà. Ça, c'est le côté lumineux des plateformes et des réseaux. Parfois, on peut aussi envoyer de l'amour, des cœurs, de la force à telle ou telle personne. Là, c'est pour Raphaël, il a 11 ans, il a donc une grosse opération dans quelques jours, c'est ça? Reprise de greffe de peau sur les deux pieds. Voilà. Raphaël, je ne sais pas si tu verras ce message, mais. la communauté ce matin sur Twitch et sur TikTok aussi. Tu as des messages sur le chat TikTok. T'envoie de l'amour, de la force, pense à toi. Et est persuadé que ça va bien se passer. J'ai vu plein de messages en mode, tu sais, on a vraiment de très bons médecins en France. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un système de santé qui est incroyable. On s'en rend pas compte parce que, hélas, parfois, il se détériore. On pense à l'hôpital public. Par manque de moyens, mais relativement comparé à plein d'autres pays, on a un système de fou, quoi. Donc Raphaël, on sait que ça va bien se passer. En tout cas, on pensera bien à toi. Et si la force que je vois dans le chat ici et l'amour arrivent à te parvenir, bah, ce serait super. Voilà. Vous êtes géniaux, hein. Bisous, Raphaël. Tu vois, et Lilou, vous savez qui, donc, me dit à ce propos de notre système de santé, oui, clairement, les chirurgiens lui ont sauvé la vie. Voilà. Bon, merci Lilou d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous verrez, à propos de santé, vous le voyez dans le sommaire, un article au titre un peu mystérieux qui s'appelle « Le jour où Nicole est morte ». Et c'est pas vraiment une information, c'est pas vraiment une actualité, mais c'est un article dans La Croix qui est très beau, qui est très fort, qui est très touchant. Et vous comprendrez pourquoi je vous le lirai tout à l'heure. Ok ? Lilianovitch, on a parlé des agriculteurs lundi déjà. Bonjour, on ne parle toujours pas des agriculteurs avec ce qui s'est passé hier en Ariège. Alors on a déjà parlé, on avait de l'avance, Lilianovitch. Voilà. Après, il y a beaucoup d'actualités, je ne parle pas des mêmes choses tous les jours. Donc le toujours pas, Lilianovitch, il est un peu dépassé puisqu'on en a parlé littéralement il y a 4 jours. Et on va en reparler bien sûr. Mais on ne peut pas en parler tous les jours. Ça, en vrai Samuel, t'en penses quoi de l'actu en format ultra court comme des shorts d'Hugo Décrypte? Ce que fait Hugo Décrypte en matière d'actualité, c'est juste excellent. C'est un grand professionnel de l'actu, c'est juste top. Est-ce que j'ai votre go pour commencer cette revue de presse, bande de beaux gosses? Hein? Je vous mets tout. Alors, je vous enlève le visuel de Zach, de Samplay. Bim, je vous mets le sommaire, vous l'avez du côté TikTok, Twitch. Ok, c'est bon. Yes, baby. On y va. Merci. D'abord, merci d'être là. Allez, let's go. C'est parti pour le sommaire. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans la revue de presse, la matinée Étienne. Du vendredi, ouais, week-end ce soir, 12 décembre 2025. On lit tous les matins du lundi au vendredi les journaux, pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, dans notre pays. On en parle ensemble de façon chill. Ça fait 5 ans que ça dure. C'est tous les matins en live sur Twitch, sur TikTok. C'est en replay sur YouTube. C'est en replay aussi tous les jours à partir de 15-16 heures sur toutes les plateformes de podcast audio. Les Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur les 30 derniers jours, vous avez été 200 000, et je vous salue, vous avez été 200 000 à écouter cette revue de presse en podcast, mesdames et messieurs, sur les 30 derniers jours. Voilà, donc ça c'est nouveau, là, on sait à la mi-septembre, et on commence tous les jours par le sommaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas 2-3 heures à me consacrer, eh ben c'est pas grave. Vous avez le sommaire qui en quelques minutes va vous dire l'essentiel de l'actu, de quoi on parle ce matin. Et on va commencer par... pas par ça, non, par un truc que je viens de rajouter en lisant le chat tout à l'heure. Regardez, le triomphe de Clair Obscur, Expédition 33. J'avais oublié que cette nuit, il y avait effectivement les Game Awards. Et c'est vous qui me l'avez rappelé, donc on va partir sur ça. 9 prix, hein. Je l'espère, je ne suis pas allé voir l'article encore. J'espère celui de jeu de l'année, hein, de Game of the Year, de GOTY, pour ce jeu français, un premier jeu d'un studio qui s'appelle Sandfall, Clair Obscur, Expédition 33. Vous êtes très nombreux à y avoir joué. TikTok, je vous mets aussi l'article, j'ai trouvé, je vois qu'il y a un article dans Le Monde. Donc je vous enlève ça et je vous mets ça. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait un article dans Le Monde, par exemple. Alors moi, je suis abonné, donc j'y ai accès. Ok, il est là. Incroyable, incroyable. C'est un record du monde. Je crois que jamais un jeu vidéo n'avait obtenu 9 prix, 9 awards. Hein, c'est un record mondial. Ils ont battu le record de récompense, comme le dit Sepenki exactement. Regardez. TikTok, vous l'avez, hein, vous avez l'article? Ouais, vous l'avez. Ok. Lisons. Donc c'est le sommaire, hein, je vais vite. Game Awards, Clair Obscur, Expédition 33, triomphe et remporte 9 statuettes. le studio de Montpellier, Sandfall Interactive, a dominé la cérémonie américaine qui se veut l'équivalent des Oscars du jeu vidéo, raflant un nombre record de récompenses. Incroyable. La classe. Vous avez une partie de l'équipe de Sandfall ici à Los Angeles. C'est fou. Avec le petit béret, là, la marinière qu'on retrouve dans le jeu, quoi. Ah. Incroyable. Incroyable. Et donc, Gotti, alors Gotti, c'est ça? Ils ont eu le 1 hein, 9 sur 11 nominations? 9 sur 11 nominations? Sérieux? Incroyable. Ouais. Ok, alors je vois plein de messages de fous dans le chat. Vous êtes un petit peu hypé par cette nouvelle. C'est incroyable. Voilà. Jeu vidéo de l'année. Meilleure réalisation. Meilleur jeu indépendant. Meilleur jeu. Alors mobile, c'est pas eux. Meilleur scénario. Meilleure direction artistique. Meilleure bande originale. Waouh. Meilleure performance de doublage. Ok. Meilleur jeu de rôle. Waouh. Meilleur premier jeu indépendant. C'est fou. Incroyable. C'est fou. L'article du Monde, il est cool parce qu'il donne tout le palmarès. Ok, bon, je suis dans le sommaire, donc je vous parlerai de ça tout à l'heure. On va commencer par ça. C'est ce qu'on appelle une fausse ouverture en langage de JT. C'est-à-dire qu'en fait, TikTok, je vous remets ce qu'il faut. C'est en fait, il y a tous les titres, tous les gros titres, mais on commence le JT par une autre histoire parce qu'on a envie. De mettre la lumière sur une actualité. Et là, on va parler de ce succès incroyable. On attend avec impatience le prochain jeu du studio. Alors, en deuxième actu ce matin, vous le voyez, on est dans le sommaire, hein, on va parler des États-Unis, parce qu'en fait, l'administration américaine et Trump ont décidé de durcir pas seulement l'accès aux États-Unis pour les personnes qui veulent vivre aux États-Unis, qui veulent émigrer aux États-Unis, mais pour tout le monde, voilà, notamment pour les touristes. Voilà. Et la question que pose Libé, c'est qui peut encore se rendre aux États-Unis depuis le retour au pouvoir de Trump il y a près d'un an et son durcissement drastique de la politique migratoire du pays. Bon, ça, vous connaissez. L'accès au territoire américain se complique de plus en plus, voilà, et notamment pour les touristes. Voilà. Et c'est assez étonnant. Le truc n'est pas encore tout à fait validé. Voilà. Je crois qu'il y a encore des recours possibles. Mais notamment, par exemple, si vous êtes français et que vous voulez aller aux États-Unis, la France faisant partie des pays qui n'ont pas besoin de visa, seulement une autorisation de voyage électronique, eh bien, vous allez voir qu'il y a plein de nouvelles mesures. Et notamment, je vous lis cet extrait, l'administration Trump qui veut désormais exiger des visiteurs étrangers exemptés de visa, donc c'est les Français par exemple, hein, qu'ils fournissent l'historique de leurs activités sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. Hein. Les services des douanes et de la protection des frontières s'autoriseront aussi à aller voir tous les numéros de téléphone utilisés au cours des 5 dernières années. Les adresses électroniques utilisées au cours des 10 dernières années. Ça n'est pas une blague. Ça n'est pas une blague. Voilà. Je vous lirai ça tout à l'heure. Voilà. Je crois qu'il y a encore des recours possibles. Mais c'est assez une dinguerie. Ouais. Autre sujet ce matin, je suis dans le sommaire. La baisse du taux de natalité en France. C'est-à-dire le fait qu'on fait moins d'enfants qu'avant. On en a déjà parlé plein de fois, mais s'il y a un sujet qui inspire beaucoup les médias et les journaux, parce que bon, c'est un sujet qui impacte directement notre pays, son aujourd'hui et son demain. Voilà, et c'est au tour du Figaro de faire un dossier sur les raisons du pourquoi, du comment on fait moins d'enfants en France. Voilà, on a déjà parlé on a évoqué ici plein de raisons possibles. Hein. On n'est pas dans la tête des parents non plus, mais on sait que les questions de pouvoir d'achat, de logement jouent. Voilà, donc le Figaro fait un gros dossier là-dessus. On verra. Ce dossier, s'il est un petit peu exhaustif, s'il fait un petit peu le tour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête, pas lancée par le Figaro, mais il y a une enquête qui a été lancée par une mission d'information parlementaire sur le sujet, et c'est pour ça que ça, le Figaro en parle, et il y a eu 30 000 réponses sur le sujet, donc c'est cette analyse aussi de ces réponses qui est assez intéressante. Pouvoir d'achat, logement, changement de comportement individuel, voilà. Donc on se penchera sur ça avec le Figaro. La Croix, qui est un journal que j'aime beaucoup, je ne le cache pas, nous parle de la surpopulation carcérale en France, alors que la surpopulation carcérale atteint un seuil historique en France. Les évêques, puisque La Croix c'est un journal chrétien, se rendront dimanche dans 102 prisons à l'occasion du jubilé des détenus. Donc ça c'est l'actualité, mais ce qui est... fine analyse de Chéronex. La Croix c'est pas hyper catho? Attends, laisse-moi réfléchir. Un journal qui s'appellerait La Croix serait-il un peu chrétien catholique? Je me demande si effectivement il n'y a pas un message finement analysé, Chéronex. Merci beaucoup, ça fait plaisir en vérité. La Croix qui est un journal qui se soucie beaucoup de l'humain, qui est un journal que j'aime beaucoup pour ces raisons-là, se penche sur la surpopulation carcérale et la dénonce. Voilà. Je veux dire presque extrémiste. Chéronex, avant de t'interroger, creuse un petit peu les sujets. Voilà. Penche-toi un petit peu sur l'histoire de La Croix plutôt que de lancer des... C'est bien de lancer des débats, mais c'est encore mieux quand tu... quand t'as bossé un petit peu avant de lancer le débat, sinon ça fait un petit peu... Allez, je t'en remets une. Allez, let's go. Ouais, moi j'ai entendu dire que... Tu vois, c'est... En l'occurrence, non, mais... en deux clics, tu peux trouver la réponse à ta question, quoi. On se penchera sur ce sujet. En même temps... Si on mettait pas les anciens présidents de la République en prison, il y aurait moins de surpopulation carcérale, hein. Oula. Ouh. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis dans le sommaire, je fais une petite pause. Ouh. Ok, allez, salut. Sugar, headshot, il est pour moi celui-là. Donc on lira ce sujet. Et on restera dans La Croix. On restera dans La Croix avec un article qui n'est pas une actu, qui n'est pas une info. Voilà. Mais qui est très beau, qui est très fort. Je crois que c'est un écrivain et qui parle d'un moment, d'une rencontre. Et La Croix, c'est aussi un journal qui parfois publie des articles comme ça, qui est magnifique, donc je vous le lirai. Voilà, très touchant. Et on parlera de jeux vidéo. Alors, on parle de jeux vidéo avec Expédition 33. On parle de jeux vidéo aussi avec ce dossier dans Les Échos ce matin. Intelligence artificielle, l'IA, qui embrase le monde du jeu vidéo. Les conséquences de l'irruption de l'IA dans l'univers du jeu vidéo. Voilà. Ces dernières semaines, les polémiques se sont multipliées sur fond de crainte pour l'emploi dans un secteur déjà fragilisé. Voilà. Alors, il y a le côté inquiétude et il y a le côté aussi espoir. IA et cloud gaming, dans le même article, merci Lazarette 59, les deux moteurs de croissance espérés dans le secteur. Voilà. Après la période de phase des confinements en pleine pandémie, la croissance a nettement ralenti dans l'univers du jeu vidéo, ce qui pose des problèmes d'emploi, quoi. Elle pourrait réaccélérer grâce à l'usage des nouveaux outils IA selon le Boston Consulting Group, dont on lira ce papier, c'est pas inintéressant. Et on finira avec, vous m'en parliez, vous étiez très nombreux à m'en parler hier, moi j'avais pas la ref parce que j'avais pas vu la pub. Beaucoup me disaient hier, mais Sam, t'as pas vu la pub Intermarché qui est incroyable? Et d'autres disaient, ouais, mais on va pas faire la pub pour Intermarché. Et du coup, je suis tombé par hasard sur les réseaux, sur la pub. Je l'ai regardé, j'ai été étonné de sa longueur déjà. Le spot, c'est un petit film, quoi. Mais j'ai été aussi étonné de sa qualité. Et l'histoire est incroyable. Le film est trop mignon. C'est fait sans IA, justement. Avec des, mesdames et messieurs, des humains, hein, des hommes, des femmes qui ont travaillé dessus. Et le truc devient viral. Et c'est vrai que le truc est cool. Donc, on ira regarder en vrai, quoi. Voilà. C'est vrai que l'histoire est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Par un studio déjà nommé, Moulbit, aux Oscars. Un studio, c'est un studio français? Bon bah, ouais, de raison de plus d'en parler, quoi. Ok. De Montpellier? Mais Montpellier, c'est... Mais quelle ville de Gaute! Incroyable. Ok. Oui, Intermarché qui vient d'avaler Auchan, ouais. Ça faudra que je vous en reparle aussi. Ok, voilà pour le sommaire. Vous avez l'essentiel de l'actu. Ok? Donc, pour ceux qui ne peuvent pas rester ce matin, Avec nous 2-3 heures, vous savez d'à peu près de quoi parle l'actualité. Maintenant, on va prendre le temps maintenant. On va prendre le temps de lire toutes les infos dont je vous ai parlé. On va commencer par l'article du Monde. Il y a plein d'articles ce matin sur Internet, sur le succès au Game Awards du jeu français Clair-Obscur Expédition 33. Hop. On passe au sujet suivant dans le sommaire. TikTok, je vous mets aussi l'article. Tac. Et ici. Vous l'avez là. Voilà, c'est parti. Ouais. J'ai l'impression que l'article du Monde, effectivement, est assez complet. Qu'est-ce que ça dit ? Donc, premier sujet, c'est une fausse ouverture. Hein. J'aurais pu en parler à la fin, mais c'est une vraie bonne nouvelle pour le jeu vidéo français et pour ce studio et pour tous ceux qui ont aimé ce jeu. Donc, je commence par cette info. C'était cette nuit, c'était il y a quelques heures. Hein, c'était aux États-Unis. Game Awards, Clair Obscur Expédition 33. Article dans Le Monde, hein, publié à 7h41. Le jeu triomphe et remporte 9 statuettes. Hein, le studio de Montpellier, Sandfall Interactive, c'est leur premier jeu. Hein, avec notamment des gens, pas tous, hein, mais certains venaient d'Ubisoft. A dominé la cérémonie américaine qui se veut l'équivalent des Oscars du jeu vidéo, raflant un nombre record de récompenses. Jamais un jeu n'avait obtenu autant de distinctions aux Game Awards. Je vois dans le chat certains, et c'est pas la première fois, qui sont en mode « Ah oui, mais on est d'accord que ce jeu est un peu surcoté. » Tu as le droit de le trouver surcoté, c'est subjectif le plaisir qu'on a devant un jeu vidéo. N'en dégoûte pas les autres. Hein. Certains ont aimé, ce jeu s'est vendu, et ben les ventes du jeu sont folles. Hein. Et ils viennent d'avoir 9 statuettes. Alors, tu peux estimer, toi, que le jury des Game Awards se sont trompés, mais bon, manifestement, eux, ils ont aimé. Alors, c'est quoi l'actu ? Difficile de manquer l'équipe de Sandfall Interactive sur le tapis rouge des Game Awards à Los Angeles cette nuit. La vingtaine de développeurs présents, assez cool, il y avait du monde du studio par contre, avait choisi d'arriver dans un même uniforme, marinière pour presque tous, béret rouge pour certains, et même nappe à carreaux en bandoulière, clin d'œil assumé, à un costume de leur jeu, hein, clair-obscur. Cette tenue, c'était censé être une blague, s'amuse le PDG et directeur créatif du studio français, Guillaume Broche, qu'on avait interviewé sur cette chaîne et qui nous avait dit à quel point ce jeu, c'était son jeu de rêve. C'était le jeu qu'il avait rêvé pendant plusieurs années. Voilà. Et qu'il avait réalisé ce rêve. Voilà. Clair Obscur Expédition 33, donc pour ceux qui vivaient dans une grotte ces derniers mois, est un jeu de rôle au combat exigeant qui se déroule dans l'univers de la Belle Époque. C'est aussi la première production, enfin Belle Époque, inspiration quoi. C'est aussi la première production du studio. Nous ne savions pas faire de jeu avant, c'est M. Guillaume Broche. Jamais en 12 éditions, une première création n'avait ainsi été récompensée aux Game Awards. Coup d'essai, coup de maître, déjà auréolé de 12 nominations, ce qui était déjà un record. Hein ? Les Montpelliérains repartent finalement avec 9 statuettes, dépassant de 2 statuettes la performance de The Last of Us, Part 2, qui a eu 7 prix en 2020. Leur jeu a impressionné les jurés par la qualité de la production, prix de la meilleure réalisation, meilleur jeu de rôle, meilleur jeu indépendant, que pour sa direction artistique, meilleur scénario, meilleure direction artistique, meilleure bande originale. Les organisateurs, anticipant cette razzia, avait d'ailleurs ouvert la cérémonie avec une performance du compositeur avec qui on avait échangé d'ailleurs aussi sur ma chaîne Twitch. Il est où ? Laurien Testard. Voilà. Et qui nous avait expliqué qu'il avait travaillé sur cette musique plusieurs années. Ouais. La nomination de Clair Obscur a été écrasante dans la catégorie de la meilleure performance de doublage. 3 membres du casting anglophone figuraient parmi les 6 nominés. Alors face à cette moisson, qui chagrine certains, je vois que certains n'ont pas été hypés par le jeu. Certains n'y ont peut-être pas joué d'ailleurs. Alors, ce qui serait embêtant, c'est que ceux qui ne sont pas hypés par le jeu n'y aient pas joué. Moi, pour le coup, j'y ai joué. J'ai aimé. J'ai été plus hypé par d'autres jeux cette année. mais parfois ce sont des jeux qui sont sortis il y a quelques années, parce que moi je découvre avec un peu de retard cet univers, j'essaie de rattraper ce retard. Donc j'y ai consacré quelques streams. Les mécaniques de combat, par exemple, qui sont particulières. Moi, bon, j'ai aimé les découvrir, mais ça m'a pas hypé, j'en ai pas rêvé la nuit, tu vois. Comme le dit Tsetse Tsubasa, c'est pas mon type de jeu naturel. Par contre, c'est vrai que la qualité graphique, musicale, du lore était bluffante, quoi. Il y a eu des moments, il y a des moments de poésie, il y a des moments incroyables, quoi. J'étais plus séduit par l'ambiance, par la beauté du jeu que par le gameplay, quoi. Donc je Mais j'espère que ceux qui sont un petit peu en mode ouais, trop hypé ce jeu, hein, je comprends pas. J'espère que ces gens y ont joué quand même, parce que ce serait quand même dommage. Du coup, face à cette moisson, les autres prétendants ont eu du mal à exister. Hades 2 et Hollow Knight Silksong décrochent tout de même respectivement les titres de meilleur jeu d'action et meilleur jeu d'aventure. Le Donkey Kong Bonanza, j'y ai pas joué de celui-ci, de Nintendo repart avec le titre de meilleur jeu familial. Des lots de consolation pour des productions majeures de 2025. D'autres favoris repartent les mains vides. Kingdom Come Deliverance 2, pas de prix. Blueprints, qu'on a découvert avec DFG ici, excellent jeu, pas de prix. Death Stranding 2, pas de prix. Je vais vous lire, hein, parce que je vois plein de réactions hyper intéressantes. Vous connaissez cet univers pour certains bien mieux que moi. Si elle se veut l'équivalent vidéoludique des Oscars, la soirée interminable, hein, ça avait l'air un petit peu chiant, a eu du mal à se faire oublier qu'elle était avant tout un événement promotionnel, vitrine de luxe pour les éditeurs désireux de faire de la réclame pour leur production à venir. Bon, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais le monde a trouvé ça un peu chiant parfois. 3 heures durant, annonce en cascade, tunnels publicitaires ont ainsi rythmé le show. Vous l'avez regardé, vous, cette nuit? Vous en avez pensé quoi de la cérémonie? Bien ou un peu chiant? Le tunnel publicitaire, c'est le mot. Ouais. C'était cool. Ouais, j'ai vu le début, puis je me suis endormi. Ça va, moyen. Chiant de dingue. J'ai regardé, c'était cool. Moins bien que les Molières, ok. Chiant par moment. Un peu long, mais ça allait. Ok, d'accord. Alors, il y a eu quelques annonces. Donc ça nous intéresse aussi. L'Ariane Studio, qui a été sacré il y a 2 ans pour Baldur's Gate 3, a révélé les premières images de Divinity, nouvel opus de sa série fétiche lancée en 2002. Divinity, ça, je sais pas la ref, c'est bien, Divinity. Le public a aussi pu découvrir 2 jeux Star Wars, le jeu Star Wars Fate of the Old Republic et le jeu de course Star Wars Galactic Racer. Divinity banger, génial. Excellent. Action RPG, un peu comme Baldur's Gate. Ok. D'accord. Les premières images également de Contrôle Résonante ou encore de Total War Warhammer 40 000. Ok. Mais la principale surprise, nous dit Le Monde, venait peut-être d'une série vieille de bientôt 30 ans et que l'on avait laissée ces dernières années dans la tourmente, Tomb Raider, qui fait un spectaculaire retour avec l'annonce de pas moins de 2 nouveaux projets. Nouvel épisode baptisé Tomb Raider Catalyst ainsi que Legacy of the Atlantis, remake, réimagination du premier jeu de la franchise. Ok. Voilà, et là vous avez tout le palmarès. Tout le palmarès. Pamphile résume peut-être la vie de beaucoup. Hein. C'est vrai que Clair Obscur mérite tous les prix obtenus, mais c'est un peu triste de voir certains. Autre jeu excellent, repartir bredouille. Cet article est paru en ligne, ouais. Bah oui, parce que ça s'est passé cette nuit, donc il peut pas être dans la version PDF papier, quoi. Ok. Donc le jeu de l'année, c'est donc le GOTY, hein. Game of the Year, c'est Clair Obscur, Expedition 33. Meilleure réalisation aussi, meilleur jeu indépendant. Le meilleur jeu mobile, c'est Uma Musume, Pretty Derby, ça je connais pas. Meilleur scénario, Clair Obscur. Meilleur DA, Clair Obscur. Meilleure bande originale, bon voilà, normal, hein. Clair Obscur. Meilleur design sonore, BF6, Battlefield 6. Meilleure performance de doublage, Clair Obscur. Meilleur jeu d'action, Hades 2. meilleur jeu d'aventure Hollow Knight, Silksong, meilleur jeu de rôle Clair Obscur, meilleur jeu de combat Fatal Fury, City of the Wolves, meilleur jeu familial Donkey Kong Bonanza, Nintendo, on en parlait tout à l'heure, meilleur jeu de stratégie Final Fantasy Tactics, meilleur jeu de sport ou de course Mario Kart World, meilleur premier jeu indépendant Clair Obscur, meilleur jeu multijoueur Ark Raiders les amis, hein, le jeu auquel beaucoup jouent en ce moment, notamment beaucoup de streamers, Ark Raiders, donc distingué quand même. Donc c'est le meilleur jeu multijoueur. Meilleure adaptation de jeu vidéo au cinéma ou en série, The Last of Us saison 2. Le jeu le plus attendu de 2026, c'est drôle. Meilleur jeu attendu de 2026. GTA 6, c'est très drôle ça. Il donne un prix. C'est drôle. Ça, c'est drôle. Prix des joueurs, Wuthering Waves. Meilleur jeu en VR ou augmenté de Midnight Walk. Meilleure innovation pour l'accessibilité, Doom, The Dark Ages. Meilleur jeu avec un impact au-delà du secteur, South of Midnight. Meilleur jeu en ligne, No Man's Sky. Meilleure animation de communauté en ligne, Baldur's Gate 3. Meilleur jeu, meilleur créateur de contenu, Most Critical. Meilleur e-sport, CS2. Meilleur e-sportif, Chovy. Meilleure équipe d'e-sport, Team Vitality sur Counter-Strike 2. La France, mesdames et messieurs. Voilà. Pas mal, il est assez complet cet article. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne. Parce que je vois que ça provoque beaucoup de réactions, c'est cool. Incroyable pour Ark Raiders, sorti il n'y a que un mois. C'est vrai ce que tu dis. Ce jeu... Moi, j'avoue que je n'y ai pas joué. Hein. C'est marrant, je vois plein de gens y jouer. Puis, je sais pas, c'est la connexion entre un joueur et un jeu, c'est mystérieux. Et j'ai beau voir plein de gens jouer. Je vois du gameplay, je vois plein d'amis streamers la nuit dessus. Puis, c'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Alors que tout le monde me dit, vous les premiers, que le jeu est top. Mais il y a trop de jeux. On sera tous en congé à arrêt pour la sortie de GTA 6. En vrai? Je suis sûr qu'il y a des économistes qui vont se pencher sur l'impact sur l'économie, sur l'activité, lors de la sortie du jeu GTA 6. Et il n'est pas impossible que ce soit mesurable. Ouais. Effectivement. Dans certains pays, en tout cas. Mom64 dit qu'on aime le jeu ou pas, Clair Obscur, c'est une super nouvelle pour la création française. Et ça confirme notre pays comme l'une des places fortes de la création d'une des industries les plus porteuses au monde. Salut Rina Ruchan. Le sommaire, on l'a fait, mon ami. Mais on l'a passé déjà. On est dans le premier sujet sur le succès de fou de Clair Obscur aux Game Awards. Salut Jordan. Voilà. Un peu dommage pour Kingdom Come Deliverance 2 qui méritait peut-être de ne pas repartir bredouille, mais pas de bol de sortir la même année que Clair Obscur Expédition 33. Bah, quand GTA 6 va sortir, il y a sûrement d'excellents jeux. Bah, tout le monde dit que GTA 6 ce sera forcément le GOTY de cette année, alors 2026, 2027, on ne sait pas. Mais il y aura sûrement d'excellents jeux qui vont sortir de cette année-là et qui vont être un peu éclipsés par GTA, quoi. En tout cas, on voit que vous connaissez le sujet, quoi. Salut Tempestarta. J'ai encore un ou deux messages et puis on enchaîne. Kingdom Come, ouais, Kingdom Come, excellent, ok. Aucun prix pour Samuel Etienne, Streamer of the Year. Si, mais alors pas à Los Angeles. Mais à Paris, hein. Il y a deux soirs quand même, hein. Créateur Gaming 2025, hein. À la Paris Creator Week, mesdames et messieurs. Eh oui, sans doute pour ça me plaît. Voilà. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, ils se sont emmêlés les pinceaux dans le vote, le jury. Voilà. Creator Gaming 2025. Sans doute pour mon exploration malhabile de cette culture. Ouais. C'est moi qui n'ai eu. Il est où le béret? Ouais. Le trophée, il est fou en vrai. sois fier de toi. Ouais, non, je suis content. Le raid du GOAT, Arcunir. Mesdames et messieurs, Arcunir, c'est le matin maintenant. Mais alors, on a beaucoup parlé avec Arcunir quand on s'est vu chez Kameto, là, au train infernal. Arcunir qui se met au matin et qui justement se challenge avec les nouveaux horaires et tout. Comment ça se passe, les nouveaux horaires pour Arcunir? On a regardé des dessins animés. Oui, je crois que c'est ça, c'est la propale, ouais. Comment ça se passe pour le nouveau rythme en termes de sommeil, d'hygiène de vie, tout ça, ça se passe bien? En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Bah, tiens, on a la réponse de notre ami. Bah, en vrai, là, je commence à rentrer dans le rythme de fou. Je suis tellement moins fatigué. Ça, je suis pas surpris. Bah, bravo, c'est cool de t'avoir avec nous le matin, en vrai. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que je pourrai te rendre la gentillesse bientôt, quoi. Ok, et bienvenue à la commune d'Arcunir. On est dans la matinée Étienne. Tous les matins, on lit les journaux, vous savez, tous les matins, du lundi au vendredi. Et on a commencé, bien sûr, par un article sur lemonde.fr, là, sur le succès de fou de Clair Obscur, Expédition 33, 9 awards au Game Awards à Los Angeles. Juste incroyable. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, hein. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est, si j'avais eu le temps ce matin, mais on va manquer de temps, c'est d'aller voir les trailers des jeux annoncés, là, parce qu'il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces. Hein, dans les nouveautés à venir, là. Voilà. Peut-être ce soir, en vrai, ouais. Ça va être chaud, là. Mais là, il nous reste 1h30, là, 1h40. Donc, on va enchaîner. Ce soir, je vous retrouve plutôt pour du gaming. Ok. Donc, maintenant, deuxième sujet. Voilà, en tout cas, très content de cette première info. Ok, TikTok, je vous mets ça aussi. Tac, et c'est parti. On va parler maintenant de monsieur Donald Trump et de sa politique migratoire et de sa politique de visa, y compris pour nous, les petits Français, vous allez voir. Ok, deuxième sujet que j'ai intitulé « Dur, dur d'aller aux États-Unis ». Voilà. Et peut-être on va être prudent parce qu'il y a un monde où tout ça n'est peut-être pas encore validé. On va lire ça avec prudence. Alors, qui peut se rendre encore aux États-Unis? C'est la question posée par Libération ce matin. Depuis le retour au pouvoir de Trump il y a un an maintenant, c'est son deuxième mandat, vous le savez, et son durcissement drastique de la politique migratoire du pays, l'accès au territoire américain se complique de plus en plus, y compris peut-être pour nous les Français par exemple. Libé fait le point sur les nouvelles règles en vigueur. Le tour de vis autoritaire de l'administration Trump se lie dans les évolutions de la politique migratoire et touristique des États-Unis. Plus les mois passent, plus le pays se barricade et invente des règles permettant de trier sur le volet les étrangers accueillis sous son sol, manière de lutter à la fois contre l'immigration et d'exercer un contrôle croissant sur les personnes. Résultat, il est de plus en plus compliqué d'obtenir un visa ou une autorisation de voyage électronique pour les citoyens des pays exemptés de visa, comme nous d'ailleurs les Français. En l'état, qui peut encore se rendre aux États-Unis? Libération fait le point sur les nouvelles règles en vigueur et surtout ce qui complique désormais l'entrée sur le territoire américain. Êtes-vous bien sûr de ne pas avoir partagé sur vos réseaux sociaux au cours des 5 dernières années, des mèmes se moquant de l'administration Trump, des stories condamnant les dernières dingueries du président américain, voire ne pas suivre de compte au choix trop critique, trop de gauche ou pire antifasciste. Si vous êtes ressortissant d'un des 42 pays bénéficiant du programme d'exemption de visa, dont la France, et que vous avez donc seulement besoin d'une autorisation de voyage électronique, l'ESTA, hein, c'est pour nous ça, pour voyager aux États-Unis pendant au maximum 90 jours, donc c'est pour du tourisme, ces informations pourraient bientôt avoir leur importance. L'administration Trump veut désormais exiger des visiteurs étrangers, exemptés de visa, donc c'est nous, qu'ils fournissent l'historique de leurs activités sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. Hein? Selon, alors quelle est la source? Toujours se demander d'où vient l'info. Hein? Selon un avis publié mercredi dans le Register fédéral, le journal officiel américain, le JO américain. Outre l'historique des réseaux sociaux, les services des douanes et de la protection des frontières ajouteraient d'autres nouveaux champs de collecte de données, notamment les numéros de téléphone utilisés au cours des 5 dernières années. Waouh. Et les adresses électroniques utilisées au cours des 10 dernières. Ils exigeraient également des demandeurs d'ESTA, donc c'est nous par exemple, qu'ils fournissent des informations sur les membres de leur famille, notamment nom, numéro de téléphone, date de naissance, lieu de naissance, adresse de résidence, sauf contestation en justice. Le texte, c'est pour ça que je disais attention, ça ne s'applique pas encore, sauf contestation en justice, le texte sera appliqué d'ici 60 jours. Donc c'est assez concret quand même. La vie privée, concept dépassé.
Waouh.
Ce matin, j'ai lu l'article plusieurs fois, je voulais être sûr que c'était pas, j'avais pas mal compris, mais a priori non. Voilà. Vous travaillez dans la tech, vous devez parfois vérifier les informations ou modérer des contenus. Alors l'obtention du visa H1B, généralement réservé aux travailleurs étrangers hautement qualifiés, fréquemment utilisé notamment dans le secteur de la tech, se complique. Alors ça, c'est pour les touristes. Maintenant, pour ceux qui travaillent dans le secteur de la tech, hein, pour le visa H1B, selon un mémo du département d'État américain, les agents consulaires ont désormais pour consigne de chercher à savoir si un demandeur de visa dans cette situation a participé à des activités de désinformation, de modération, encore de fact-checking.
Oh, 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 oh. Les modos là, les modos des. C'est poussé.
Vous avez pu. Pas bon ça. Si vous découvrez des éléments prouvant qu'un demandeur est responsable ou complice de censure ou d'une tentative de censure de la liberté d'expression protégée aux États-Unis, vous devez conclure qu'il n'est pas éligible. Les modos, terminez les USA. Si vous êtes originaire d'un pays considéré par Trump comme un pays de merde, alors vous allez me dire, non Samuel, vraiment, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas, jamais le président Trump utiliserait cette expression, pays de merde, si, c'est une citation. Si vous êtes originaire d'un pays considéré par Trump comme un pays de merde, comprendre un pays pauvre, c'est une vraie expression qu'il a utilisée. Les choses sont bien plus compliquées. En novembre, après les tirs qui ont visé deux membres de la garde nationale, le président américain a étendu son travel ban, suspendant totalement les demandes d'immigration en provenance de 19 pays parmi les plus pauvres de la planète. Hein. Ce sont les pays où on n'a pas le droit de demander de visa. Quoi. C'est une liste. Hein. Afghanistan, Birmanie, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan, Venezuela. Chut, nos visas. Voilà, nous avons une réunion, j'ai demandé pourquoi est-ce que nous prenons que des gens qui viennent de pays de merde ? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des gens de Suède, de Norvège ? C'est exclamé mercredi Trump. Hein. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ah oui, mais ça, il l'avait dit lors de son premier mandat. Bah, manifestement, il l'a redit mercredi. Donc, voilà. Donc, petite liste là. Alors, si vous êtes suédois ou norvégien, bonne nouvelle. Hein, vous n'êtes pas considéré par Trump comme habitant d'un pays de merde. Alors, tout ça, on a l'impression que c'est une mauvaise fiction, que c'est une blague, que c'est un sketch d'une émission humoristique, mais nous sommes en 2025, en décembre 2025, et ces mots sont tenus par le président de la première puissance mondiale. Quoi. Voilà. On aurait voulu écrire ça il y a quelques années, dans une série télé, les gens auraient dit, bah, non, c'est même pas drôle, c'est trop gros, c'est tu vois. Et c'est juste la réalité. C'est exclamé donc mercredi Trump, qui ne prend plus la peine de cacher son racisme pendant un meeting en Pennsylvanie, pour être tout à fait précis. Mais nous ne prenons que des gens de Somalie, a poursuivi le dirigeant républicain, des endroits calamiteux, crasseux, sales, dégoûtants. Le niveau d'analyse géopolitique du gars est quand même extraordinaire. Donc il y a des pays dégoûtants aussi, gangrénés par la criminalité. Des exceptions aux nouvelles règles sont normalement prévues pour les détenteurs de certains visas et pour des personnes dont le voyage aux États-Unis sert l'intérêt national, faut pas déconner. Les footballeurs.
Le sketch.
Les footballeurs, par exemple, participant à la Coupe du Monde de 2026, ainsi que les athlètes des JO de 2028, donc des pays de merde, hein, ok, ne devraient pas être concernés par les restrictions. Et après, il y a des gens dans le chat qui vont pop en disant « Ouais, mais tu t'as pas l'air d'être trop pro-Trump, Samuel. Qui es-tu, petit Français, hein, pour juger Le gars, bah, je sais pas, ouais, je trouve pas ça fou en vrai. Hein? Depuis octobre, les ressortissants de certains pays doivent payer une caution de 15 000 dollars, près de 13 000 euros, pour pouvoir obtenir un visa B1 ou B2, c'est les visas d'affaires ou de tourisme courte durée. Pour le moment, seuls 6 pays ont été désignés pour un programme pilote qui doit durer 1 an. Il s'agit, selon l'administration, de pays identifiés par le département d'État comme ayant des taux élevés de dépassement de la durée de séjour autorisée et dont les informations de contrôle et de vérification sont jugées insuffisantes. Vous avez des pays de merde, vous avez des pays suspects. Là, il faudra payer un peu de thunasse, quoi. Mais rassurez-vous, par contre, alors pour les plus riches d'entre nous, hein, si vous êtes multimillionnaire ou milliardaire, une solution bien plus simple existe. Ça, c'est nouveau, donc je pense que ça va rassurer tout le monde. Si vous faites un don d'$1 million versé à l'État fédéral américain, vous pouvez vous offrir une gold card. Une Donald Trump golden card. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous donne cette gold card ? À l'effigie de Donald Trump, je pensais que c'était une vanne. Je pensais que c'était une vanne. Non, c'est une vanne, c'est pas possible. Elle est pas vraiment à l'effigie de Donald Trump. Si ? Sérieux ? Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. À l'effigie de Trump ? Non, c'est pas possible. Non, alors faut pas déconner. Qui permet l'accès en quelques semaines à un permis de résidence. La méritocratie ! Écrit Libération. Voilà. J'aimerais que ce soit une blague. J'aimerais que Libé se trompe. Mais a priori, non. J'ai vu d'autres articles là-dessus ce matin. Voilà. Bon. Et après, on va nous dire, ouais, mais pourquoi autre... Ouais, vous dites que c'est un mauvais... C'est pas... Le mec, c'est pas fou. Je dis, ouais, je suis pas fasciné par le modèle, ouais. C'est... On en reparlera, hein. On en reparlera. Merci Runor pour le Prime. Merci Soyland pour le 50e mois. Merci Master Caillou pour le 6e mois. Merci Takeshi Kovac 76, ça me fait plaisir de te voir. Merci Zonze, c'est 78. J'espère que ça se passe bien, Zonze, pour le Prime. Merci Aquarelle pour le Prime. Merci Théo Toilette pour le Prime. Merci Yoyoman, Grimaud, Ludwig. Merci tout le monde. Je vous l'ai vite fait et on enchaîne. Tristan, on a parlé de ce sujet lundi, mais on va continuer à en parler dans les prochains jours. Les inquiétudes des éleveurs français, bien sûr, c'est hyper important. Pas fou cette nouvelle série avec le président Orange aux États-Unis. Oh wait, nous dit Diesel. On dirait une mauvaise dystopie, l'Indux. Mais oui, exactement, c'est exactement ça. Ouais. Moi qui rêve de vivre en Californie, Gamay, $1 million, une golden card, et c'est parti. Qu'est-ce que c'est 1 million aujourd'hui? Salut, merci Tristan. On en reparlera. Hein. Tu l'as en replay sur YouTube, Tristan, sinon, si tu veux, on en avait parlé lundi. Voilà. Alors, ici, on n'a pas trop parlé ces derniers jours des mots très durs qu'il a tenus. Merci, Tartine. Trump, ces derniers jours, sur l'Europe, sur les pays européens, vieille Europe pourrie, qui est en totale déchéance et qui ferait bien de s'inspirer de Trump pour se sauver. Il y a un article ce matin qui disait que les pays européens réagissaient très très peu aux propos de Trump en privilégiant la diplomatie. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Bon, voilà pour le sujet. Je vais un petit peu vite ce matin parce qu'il y a plein de choses. On va parler de la France, on va parler du fait qu'on fait moins d'enfants en France. Les habitués de cette revue de presse vont me dire « Ouais, mais t'en as déjà parlé plein de fois. » Ouais, je sais. Mais en fait, les journaux, on parle beaucoup de ce sujet, ça les tracasse. Voilà, conséquences économiques, sociales, conséquences sur le financement de notre système de protection sociale. Moins d'enfants, c'est moins de salariés demain, moins de cotisations. Voilà. Donc y a ces inquiétudes-là. Et puis il y a une étude, une enquête parlementaire qui vient d'être, dont les résultats viennent d'être rendus pour essayer de comprendre pourquoi on fait moins d'enfants en France. Alors que longtemps, la France a été une exception européenne, vous savez, on faisait plus d'enfants que les autres, avec les Irlandais. Enfin, on faisait pas des enfants avec les Irlandais, vous m'avez compris, mais voilà. Et donc, il y a un dossier dans le Figaro ce matin qui essaie de comprendre le pourquoi du comment. Certains points, on les a déjà évoqués, par exemple, le coût du logement en France, qui est surréaliste, qui est un vrai sujet dont on ne parle pas assez, le problème de pouvoir d'achat, etc. Garde-logement, ces entraves au désir d'enfants des Français. Si la fécondité ne cesse de s'effondrer depuis 15 ans dans notre pays, plus d'un Français sur deux dit vouloir au moins 3 enfants. Selon une enquête que révèle le Figaro, le principal frein est financier. Certains disent, c'est pas le désir d'enfant qui baisse en France. Voilà. Rappelons au passage que les enfants, on a le droit d'en vouloir et on a le droit de ne pas en vouloir. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais les enquêtes semblent dire que c'est pas le désir d'enfant qui baisse en France. Il y a des gens qui disent que no kids, aucun problème avec ça. Mais c'est pas tant le désir d'enfant qui baisse, c'est la réalisation de ce désir d'enfant. Voilà. Études supérieures, encore on rentre dans la vie active plus tard. Les salaires sont pas foufou, le pouvoir d'achat est pas foufou. Pour se loger, c'est un enfer. Donc ça veut un enfant, ça veut deux enfants, ça fait trois enfants. Et en fait, au final, ça en fait moins. Parce que les conditions matérielles, économiques ne sont pas réunies. Quoi. C'est une piste. C'est une piste. Si la fécondité ne cesse... Bon, ça, je viens de le lire. Je me répète, je suis un petit peu vieux. Je lis l'article maintenant. Pourquoi les Français champions de la natalité au début des années 2010 font-ils si peu d'enfants? C'est à cette question que tente de répondre la mission d'information sur les caisses et les conséquences de la baisse de natalité en France qui a lancé une consultation à laquelle 30 000 citoyens ont répondu. C'est pas inintéressant. Les résultats de cette enquête que le Figaro dévoile sont sans équivoque. Le désir de parentalité reste profondément ancré chez les Français, mais beaucoup renoncent à ce projet d'enfant. Il y a des gens qui veulent trois enfants, mais ils n'en font que deux. Il y a des gens qui veulent deux enfants, ils n'en font qu'un. Il y a des gens qui veulent un enfant, mais finalement, ils n'en font pas. Les raisons financières que vous êtes très nombreux à évoquer, je vous lis, arrivent en tête des entraves à la natalité avant l'inquiétude liée à l'avenir aussi de la société et le déclassement au travail. Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir des générations entières renoncer à leur projet d'enfant, alerte le rapporteur de cette mission d'information, qui est une mission d'information parlementaire. Il est temps d'engager une véritable révolution de notre politique familiale. Je crois qu'il est interviewé par le Figaro. C'est intéressant en vrai. Logement, moyens de garde, célibat, ces multiples freins qui empêchent les Français d'assouvir leur désir d'enfant. Pardon. Donc 30 000 personnes ont répondu à ce questionnaire de la mission parlementaire, c'est ça, sur les causes de la dénatalité. Le Figaro dévoile les principales inquiétudes et attentes. Bien sûr, Catalès, tu as raison, il y a aussi cet aspect-là que je trouve très important. Mon exemple, c'est qu'on a choisi de l'avoir. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus subi, le désir d'enfant, on le choisit vraiment aussi. Ouais. Il y a aussi ça qui joue. Et en soi, c'est une bonne chose d'ailleurs. À force de voir les courbes de naissance s'affondrer, on en viendrait presque à penser que les Français ne veulent plus faire de bébés. Les 30 000 réponses à la consultation lancée par la mission d'information parlementaire laissent entrevoir une toute autre réalité. Oui, Anthony, un enfant, ça coûte une couille. Oui, il fallait le tenter ça ce matin. Ok, d'accord. Le désir de parentalité reste profondément ancré chez les Français, selon cette enquête. Premier enseignement. L'afflux des réponses indique un intérêt majeur pour le sujet. Près de la moitié des répondants qui ont rempli un questionnaire sur le site de l'Assemblée considèrent encore la famille nombreuse comme un idéal. La famille où 3 ou 4 enfants et plus continue de faire rêver 52% des gens qui sont allés répondre au questionnaire. 32% désirent 2 enfants, un pourcentage qui indique que la famille à 2 enfants reste un modèle solidement ancré malgré la chute de l'indice de fécondité en France à 1,62 enfants par femme en 2024. Donc, le désir d'enfant donne des chiffres qui sont supérieurs à ce qu'on fait en réalité. Quoi. Spécial dédicace à Mama. On est au niveau de taux de fécondité le plus bas en France depuis la fin de la Première Guerre mondiale quand même. Les chiffres, ils sont un peu fous. Quoi. Est-ce le signe que le climat politique tendu, les difficultés économiques, l'inquiétude engendrée par les conflits internationaux ou l'éco-anxiété n'ont pas eu totalement raison de cet élan vital du pays. Bien que le sujet ait été très médiatisé, seuls 5% des Français qui ont répondu à cette enquête s'inscrivent dans la mouvance No Kid, désir ne pas vouloir d'enfants. 5% des personnes qui ont participé. Ils disent, nous, on ne veut pas d'enfants. Okay. Donc ces 5%, ça n'est pas rien, mais c'est pas tant que ça, finalement. 7% déclarent en vouloir un seul enfant. Voilà. Cet attachement à la famille de plusieurs enfants va au-delà des dernières statistiques de l'INED sur la question. Voilà. Voilà. Donc, le Figaro dit attention quand même aux résultats de ce questionnaire. Même le Figaro, qui est plutôt un journal conservateur, dit les chiffres nous semblent un petit peu élevés. quand on regarde l'étude de l'INED de 2024, il n'y avait que 23% des personnes des 18-49 ans qui déclaraient vouloir 3 enfants ou plus. Voilà. Les résultats reçus par les députés, manifestement sur la base du volontariat, méritent d'être nuancés par le profil des répondants. Qui a répondu à cette enquête ? Toujours s'interroger quand même, parce que c'est vrai que l'enquête est... manifestement, elle est très pro-famille, famille nombreuse. Quoi. 80% des réponses proviennent de Français de 25 à 45 ans, déjà installés dans la vie, généralement issus des classes moyennes ou des classes aisées. Vous voyez, c'est important. Les femmes sont également surreprésentées. Cette consultation donne donc un aperçu du désir d'enfant au moment même où la question de la famille se pose. Voilà. Donc du coup, la mission parlementaire, là, elle a prévu d'aller interroger aussi d'autres catégories de Français, notamment les jeunes, d'aller sur le terrain. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un delta entre la réalisation du désir d'enfant et le désir d'enfant. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Dans un rapport qu'elle va rendre fin janvier, cette mission d'information va donc faire des propositions pour réduire cet écart entre le désir d'enfant et les réalisations. Et en attendant, ils ont posé des questions. À quel âge est-il idéal d'avoir un premier enfant ? Avez-vous déjà reporté ou abandonné un projet d'enfant ? Hein ? Pour cerner les contours de la dénatalité, les députés ont posé plein de questions et les réponses pointent différents obstacles. Différents obstacles selon qu'il s'agit d'une première naissance ou des suivantes. Pour le premier enfant, les entraves sont multiples. La crainte du coût financier de l'enfant, 28% des sondés, c'est beaucoup, hein. Inquiétude sur l'avenir de la société. 18% des sondés, on est sur les inquiétudes liées au premier enfant. Pourquoi faire des enfants dans un monde condamné ? À quoi bon transmettre dans ces conditions ? Interroge beaucoup des répondants et beaucoup de personnes ici régulièrement quand on parle de ce sujet. La peur de ne pas arriver à conjurer l'arrivée d'un bébé avec sa vie pro. Taraude 15% des Français consultés. On nous demande beaucoup en investissement, en temps, est-ce que je vais réussir ça à concilier avec un enfant ? Certains vont même évoquer le risque de déclassement professionnel. Je vais moins pouvoir être au taf, quoi. Faire un enfant aujourd'hui, c'est accepter de perdre du temps, de l'argent, parfois sa carrière, écrit un sondé. Voilà. Et même j'ai dit, ce sont des doutes légitimes. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, vous connaissez ma position sur ce sujet. C'est un sujet éminemment personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, la position de chacun sur la question de la parentalité, elle est respectable. Voilà. Il y a même une répondante qui dit « Avoir un enfant est devenu un suicide social pour une femme ». C'est des mots très forts. En filigrane, la question du célibat ou de la fragilité des couples perce aussi dans les réponses. « J'ai dû avorter car mon partenaire n'était pas fiable. Je ne me voyais pas assumer un enfant seul au RSA chez ma mère. Je précise que j'ai un bac plus 5 en lettres. J'ai voulu avoir des enfants, mais je n'en aurais pas », rapporte une femme en difficulté malgré ses diplômes. Un sondé ironise, nous vivons toujours plus dans un modèle ultra-libéral, ultra-individualiste, ultra-connecté, et vous cherchez à comprendre les raisons de l'augmentation du célibat et de la baisse du taux de natalité, dit-il. Merci pour le soutien. Merci Lewis. Merci Runor. Ça, c'est pour le premier enfant. Et je sais que ce qu'on vient de lire, je le vois souvent dans le chat. Hein ? Quand il s'agit de faire un enfant de plus, l'aspect financier de l'éducation et de l'entretien, 42% des sondés apparaît de manière encore plus nette. C'est vraiment la question de l'argent, du pouvoir d'achat, des conditions matérielles. Un résultat qui recouvre les difficultés de logement des familles, qui est un vrai scandale en France aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a eu des études économiques carrées là-dessus. Un jeune actif, un jeune ménage, à investissement professionnel et équivalent, à des difficultés pour se loger sans commune mesure avec les générations précédentes. Hein. Ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un avis, c'est un fait. Il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de se loger en France qu'avant. Voilà. Ça, c'est une réalité. C'est prouvé. Le pouvoir d'achat immobilier des ménages en fonction de leurs revenus a beaucoup diminué. Bon. Et un enfant, c'est idéalement une chambre, quoi. Tu vois, donc ça joue. Un résultat qui recoupe les difficultés de logement des familles avec des loyers trop chers ou la fameuse chambre manquante, les budgets serrés en fin de mois, l'inquiétude de ne pas pouvoir assumer des charges croissantes avec un salaire trop bas ou qui plafonne. Voilà. Hein. La mère des batailles, c'est le logement. On ne se reproduit pas en cage, lance un sondé avec un certain sens de la formule. On ne renonce pas à avoir des enfants par manque d'envie, l'envie d'avoir envie, mais parce que le système nous empêche d'assumer correctement ce que nous avons déjà, explique un autre. Hein. Un troisième énumère les dépenses à rallonge liées au coût d'un enfant, et la cantine, et l'étude ou le centre de loisirs, et les activités extrascolaires, et la babysitter pour les sorties d'école. En vivant dans une grande ville, les loyers pour les quatre pieds sont trop élevés. Comment envisager sérieusement les études supérieures de trois enfants quand on voit le prix des écoles et des loyers? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui ont déjà un enfant, ou deux enfants, c'est vraiment la question du pouvoir d'achat qui limite, et pas tellement la peur de l'avenir. Si la question de la conciliation entre vie perso et pro est encore mentionnée par 22% des répondants, la peur de l'avenir joue un rôle moins important. Dès que vous avez sauté le cap de la première naissance, la question se pose moins. Hein, le bonheur apporté par le premier enfant, j'ai cette chance, efface sans doute cette angoisse liée au futur. Voilà. Le contexte de crise joue cependant un rôle reconnu dans la natalité et redonne la confiance des parents. Ce n'est pas un État, c'est pas l'État qui manque d'aide, c'est le pays qui manque d'avenir, écrit l'un des participants. Voilà. C'est intéressant, l'enquête pour le coup, je la trouve assez intéressante. Alors, je vais à la fin de l'article. Comment faire en sorte que la France championne d'Europe des bébés jusqu'au début des années 2010, hein, alors à l'époque, ça y allait. Redevienne le pays le plus propice à l'épanouissement des familles. Quand les Français s'expriment sur les incitations à la natalité, parce que longtemps on a été une espèce d'exception européenne, la France, on disait waouh, ça y allait, hein, ça réarmait, bam, bam, pardon. Mais vous voyez, ça a changé. D'où vient l'enquête? Mission parlementaire, Marine. Ça vient du Parlement, ça vient de parlementaire. Comment faire que la France, championne d'Europe des bébés jusqu'au début des années 2010, redevienne le pays le plus propice à l'épanouissement des familles? Quand les Français s'expriment sur les incitations à la natalité, ils citent avant tout la question des modes de garde. Et voilà, c'est du concret, ça. Des congés parentaux allongés et mieux rémunérés. Ça tombe bien, là, au 1er janvier, normalement, il devrait y avoir un congé plus sympa pour les parents, pour le papa et la maman. On en a déjà parlé. Le plus gros problème, c'est la durée du congé maternité, seulement 2 mois et demi. À partir du troisième enfant, ça augmente un petit peu. Alors que les mamans mettent entre 6 mois et 1 an pour se remettre à l'accouchement, on leur demande de retourner travailler très rapidement. Voilà. Nous nous retrouvons donc seuls, à peine reprise de l'accouchement, contraintes de reprendre le travail, parfois sans solution de garde. Mais c'est un enfer, en vrai. La recherche d'une place en crèche a été la croix et la bannière, déplore une mère de famille qui juge prioritaire de déployer des structures collectives de garde. Un autre sentiment plus diffus, plus difficile à cerner, affleure dans cette consultation, celui d'un désamour des familles. Plus des trois quarts des Français disent que la société ne valorise pas suffisamment le rôle de parent. Avoir des enfants est devenu un sacrifice personnel dans une société qui ne valorise ni les parents, ni l'enfance, ni l'avenir. Dès qu'on dépasse 2 enfants, nous avons l'impression d'être hors norme et de devoir assumer une carrière brillante et une maternité exemplaire, pointe une mère de famille. Et de relever que dans les villes, rien n'est prévu pour les plus jeunes. Ça pousse les couples avec enfants à sortir des villes, à rendre moins accessibles encore les villes aux enfants. Dans ce contexte, les attentes vis-à-vis des politiques publiques, parce que du coup, nos responsables politiques ont une responsabilité dans le fait d'avoir construit un pays qui n'est pas très accueillant manifestement pour les enfants et les parents, hein, les jeunes couples. Dans ce contexte, les attentes vis-à-vis des politiques publiques sont fortes, 84% des répondants estiment qu'elles peuvent même influer sur la natalité. Voilà. Voilà, et on a un monsieur qui est donc Jérémy Patrier-Létus, qui est le rapporteur de la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France, qui est un député Horizon, et qui dit « Il est temps d'engager une véritable révolution de notre politique familiale. » Merci Framauro pour l'abonnement offert à Gwen. Voilà, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais vous lire un petit peu. À Lazarette 59, les incitations pour faire des enfants marchent sans doute à la marge. Cependant, j'ai l'impression que la dimension confiance en l'avenir prime. Ce n'est pas avec un accès facile à une garderie que tu compenses une crainte générale de déclassement économique. Ouais. Ça joue manifestement pour le premier enfant, mais on voit que pour le deuxième, le troisième, et plus, c'est plus une question de pouvoir d'achat, en fait. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu la pub pour le... Excusez-moi, j'avais pas vu le pub pour le livre. Les amis, on est le 12 décembre. Qu'est-ce qui nous taraude ? Quelle est la question qui nous... Attendez, je regarde un truc. C'est quoi ça ? Quelle est la question qui nous obsède en ce moment ? Bah, de trouver des cadeaux de Noël. Hein, pour la famille, pour les amis, pour les proches. Voilà. Et alors, les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Sous le sapin. Pour beau-papa, pour belle-maman, pour le frérot. Hein ? Mais même pour l'amoureux, hein, délicatement emballé dans un petit papier cadeau un peu joli, hein. Voilà, journal d'un prisonnier. Tu aimes les yaourts ? Tiens, journal d'un prisonnier. Tu es un combattant de la justice ? Tiens, journal d'un prisonnier. Oui, c'est sorti cette semaine, ouais. Bon, on a déjà parlé, on va pas en reparler. Hein. Mais il y a de la pub, ouais. Il y a des séances de dédicace aussi. L'ancien président et ancien prisonnier s'est lancé dans une tournée des librairies, là. Sa dédicace. On en a parlé hier. Il y a un dossier dans Libération qui était assez drôle que vous pouvez avoir en replay. Ouais. La pub, chic, hein. Ouais. On n'est pas tous aussi élégants, regardez. Belle chemise, belle cravate, belle veste, coupe de cheveux. Nickel, hein. C'est bon. Eh. Packaging et tout, hein. Voilà. Pourquoi la photo du livre, c'est la photo de la pub ? Je sais pas, les gars, je sais pas. J'avais pas vu, je suis désolé. Lazarette 59, à la place de mon chéri, trop sucré. Ah, c'est pas bon, les mon chéri, j'aime pas, moi. Hein. Allez, tiens, joins l'imprisonnier pour bien montrer ton amour. Je vous lis, hein, je vous lis. Alors je remonte sur la famille là quand même. Moi-même, papa depuis 6 mois, me dit Oman Etienne, très joli pseudo. C'est un bonheur de tous les jours, mais dire que notre situation financière avec ma compagne ne s'est pas dégradée serait mentir. Oui, bah oui, bien sûr. Peut-être aussi qu'en plus de tout ça, on fait des enfants plus tard parce qu'on fait des études plus longues. Bien sûr. Étape, bien sûr. L'âge du premier enfant, regardez, aujourd'hui, il est de... l'âge moyen du premier enfant, pour les mamans, il est de 31,2 ans. Il n'a jamais été aussi haut, en fait. Bien sûr. Papa depuis 8 mois me dit Inch, on a attendu d'avoir une situation pro-stable pour s'atteler à la tâche. La tâche, c'est pas désagréable. Hein. Voilà, on a notre premier enfant en crèche publique, 550 euros. C'est quoi, c'est le coût par mois, ça ? Non, c'est pas possible. Attends, Sylvain, par mois, ça coûte ça ? Non. Par mois ? 550 balles ? Il nous est impossible de financièrement d'avoir le deuxième en crèche au même moment. Attends, 550 balles ? Putain, ah ouais, c'est un budget. Ok, d'accord. Non, parce que selon les revenus aussi. Mais oui, ouais, ouais. Ah ben si t'en as deux, oui, ça fait tout de suite beaucoup, ouais. Ouais, Boustifon me dit, nous on paye 700 euros par mois pour 4 jours par semaine. Ok, Clamakin, la crèche nous coûte 1300 euros par mois pour 3 jours de présence. On a une aide de 720 euros par mois. Ok. Ok. La nounou coûte 750 euros par mois pour le compta, mais après crédit d'impôt et aide, ça revient à 300 euros par mois. Eh ouais. Eh ouais. Et donc, ça, oui. Même avec les aides, ça fait. Mais t'as deux enfants, comment t'es pas au courant, Samuel? Ah ben non, mais moi, moi, ils sont à la maison, moi. Moi, je les ai mis devant la Switch, là. Allez, hop! La Switch! Bon, c'est un investissement au début, hein. Parce qu'il faut la payer, la console. Et deux, trois jeux, quoi. Bah, après, tu laisses là. Des chips. Voilà. Des yaourts. Très bon, ça. Et c'est parti. Ouais, ça, ils peuvent se gérer un peu. Ils sont heureux, bah je peux dire qu'ils sont heureux. Mais c'est vrai que c'est bon, un sujet important. Mais c'est bien, je suis content qu'on en parle de tout ça et on est assez d'accord sur le constat quand même. Skyrim arrive sur la Switch 2, c'est vrai? Oh. Ok, les amis. J'accélère un petit peu, parce que je vous laisse à midi 10 ce matin, midi 20. Et on a pas mal de choses. On va, après ce dossier dans le Figaro sur la baisse de la natalité en France, on va parler de la surpopulation carcérale dans les prisons, donc avec ce dossier de La Croix. Ok. Alors, l'actualité évoquée par La Croix. La Croix, c'est un journal chrétien, catholique. Historiquement, mais que c'est un journal que j'aime beaucoup, alors que bon, personnellement, je suis pas, je le reconnais sans fard, ce qu'on peut considérer comme un croyant, mais j'aime beaucoup ce journal parce que c'est un journal qui se penche sur des sujets que n'évoquent pas les autres journaux. C'est un journal dont la qualité d'écriture des articles est excellente. C'est un journal qui met vraiment l'humain au cœur de tout, et en rien, c'est un journal. On va dire, il n'est pas très conservateur, curieusement, y compris sur les questions de société. Et en rien, comme quelqu'un l'a essayé de nous le faire dire tout à l'heure, c'est un journal radical, catho, quoi. Ouais, c'est plutôt un journal très ouvert, justement. Et là, qui dénonce justement la surpopulation carcérale en France. Il est chrétien, quoi. Voilà. Mais le message premier de la religion, quoi. Pas ce qu'en font parfois les hommes, suivez mon regard. Des prisons qui détruisent. Alors que la surpopulation carcérale atteint un seuil historique en France, les évêques se rendront dimanche dans 102 prisons à l'occasion du jubilé des détenus. Voilà. Des prisons qui débordent sont des prisons qui détruisent, affirment les évêques de France, qui se rendront donc dans 102 prisons dimanche à l'occasion du jubilé des détenus. Au 1er novembre, on recensait en France 85 373 détenus, niveau jamais atteint. Des surveillants, des médecins, une directrice pénitentiaire témoignent de conditions indignes. Non, Moms, c'est faux. C'est faux. Pour connaître le contenu de ces différentes publications, c'est faux pour le coup. Voilà. Ou alors, il y a un mot que tu as fourché sur un mot. Cela fait 26 ans que cette docteure, ce médecin Claire Demain, qui est dermato, travaille dans une maison d'arrêt, c'est à Angers. Voilà. Prison construite au milieu du 19e, qui en novembre accueillait 528 détenus pour 266 places. Voilà. La réalité, c'est qu'il y a souvent plusieurs détenus par cellule. C'est très rare d'être tout seul en cellule, sauf quand tu es ancien président de la République. Dans les cellules, il y a la condensation, il y a l'humidité, c'est insupportable pour les détenus qui dorment sur des matelas posés au sol. Jamais la situation, dit ce médecin, n'a été aussi détériorée. Dans cette prison, les personnes vivent dans des conditions d'indignité qu'on a du mal à imaginer. Un cri d'alarme semblable à celui que lance Yann Hervé, qui est lui syndicaliste, secrétaire du syndicat UFAP-UNSA, justice à la maison d'arrêt de Nantes, et il dit: on est au bord de l'implosion. Au 1er décembre, on recensait 985 détenus, 508 places. Voilà. C'est intenable pour tout le monde. Car dans une prison surpeuplée, la tension est permanente. C'est aussi intenable pour les gens qui y travaillent. Quand il ouvre la porte d'une cellule où sont assis 3 ou 4 personnes, le surveillant ne sait jamais ce qui peut se passer. Beaucoup de collègues travaillent avec la peur de l'agression. Ce cri d'alerte vient aussi des évêques de France, qui ce dimanche, à l'occasion du jubilé des détenus, se rendront dans 102 détenus pour une messe, un temps de prière, un pardon. Aujourd'hui, la surpopulation carcérale atteint un seuil historique en France. Elle contribue à une prise en charge dégradée, sentiment d'humiliation, augmentation de la violence, de l'oisiveté, perte du sens du travail pour les agents pénitentiaires. Elle empêche que les personnes détenues ressortent meilleures qu'au moment de leur incarcération et génère plus de récidives que de sécurité, affirment les évêques dans un plaidoyer dévoilé le 2 décembre. Des prisons qui débordent sont des prisons qui détruisent. Or, et certains l'oublient, la prison, c'est une, la peine de prison, c'est une peine de privation de la liberté. La peine de prison, ça n'est pas faire vivre aux gens emprisonnés, enfermés, un enfer quotidien sur tous les aspects. C'est la privation de la liberté. Et la prison, elle doit, elle devrait permettre aussi de permettre aux gens qui sortent de prison de se réinsérer, voilà, et de ne pas recommencer. Voilà. Petit rappel. Les chiffres sont saisissants. Chaque mois, la surpopulation carcérale dans notre pays bat des records, principalement dans les maisons d'arrêt où sont notamment placées les personnes en détention provisoire dans l'attente de leur procès. On a un taux de surpopulation actuellement de 136%. En moyenne, dans certains établissements, une quinzaine, la barre de 200% est désormais franchie. Vous avez une maison d'arrêt au Puy-en-Velay, c'est 258% de surpopulation carcérale. Dans de nombreux établissements, des cellules de 9 mètres carrés prévues pour 2 détenus en hébergement, un troisième ou un quatrième. 3 ou 4 personnes dans 9 mètres carrés. Obligées de dormir sous des matelas posés par terre. Au 1er novembre, on recensait 1615 matelas au sol dans les prisons françaises contre 3962 un an plus tôt. Quand on dort par terre, le sol est dur, froid, sale. On se réveille avec des cafards sur nous, témoigne un détenu. Dans un numéro de la revue trimestrielle Dedans Dehors, qui est édité par l'Observatoire international des prisons, l'OIP, dont certains parlaient dans le chat tout à l'heure, une trentaine de détenus racontent le quotidien dans ces prisons surpeuplées. Seul un petit muret séparait les toilettes du reste de la pièce, je devais faire mes besoins devant les autres co-détenus. La surpopulation renforce les problèmes d'agression, l'énervement, la rage. Un regard de travers et c'est parti, dit un deuxième. À trois, oublier l'intimité, oublier la religion, la prière, oublier Dieu. Mais Dieu, c'est ça qui m'a permis de tenir, de ne pas me laisser mourir. Eh bien, à trois, c'est quasi impossible. Oui, on a les fameux « Ah ben, ils n'ont pas qu'à être en prison. » Eh oui. Ce faisant, en disant ce genre de choses-là, « Ah, ben ils avaient qu'à pas aller en prison hein, !» Ce qui est un grand classique sur ce sujet. En fait, vous validez le fait que la prison va tout faire pour que ces gens recommencent. En les cassant encore plus qu'ils ne sont, quoi. Mais pour ça, il faut réfléchir un petit peu au sujet, quoi. Les conditions de détention sont donc devenues déshumanisantes, explique la docteure Pascale Giravalli, qui est la présidente de l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Pour supporter de vivre à 3 ou 4 dans un espace de 9 mètres carrés, il faut avoir une santé mentale très, très structurée, souligne-t-elle en insistant sur la promiscuité et l'absence totale d'intimité. Beaucoup de détenus ont des problèmes cutanés, rapporte la docteure Claire Demain, qui est donc dermato. Pour les traiter, je prescris souvent des crèmes. Voilà. Quand les lésions sont dans les parties intimes, par exemple, les traitements sont compliqués car il est très difficile de se déshabiller dans les cellules où tout se voit. Des cellules où souvent la loi du plus fort règne, par exemple pour choisir le meilleur lit ou le programme télé. Je me souviens de détenus qui me disaient « J'ai été obligé de taper à 2 ou 3 reprises en prison, vous ne pouvez pas être faible », constate la docteure Elisabeth Gravant. Beaucoup de détenus n'arrivent pas à dormir. Alors ils viennent vous voir pour vous demander des somnifères en vous disant « Docteur, assommez-moi ». Dans beaucoup d'établissements, la charge de travail est intenable. Alerte la secrétaire générale du syndicat national des directeurs pénitentiaires. Nos journées de travail ne suffisent pas à accomplir toutes les tâches qui nous semblent pourtant prioritaires. Hein. Par exemple, dans certains endroits, il devient de plus en plus difficile de faire des fouilles de cellules pour trouver des portables et des stupéfiants. Les surveillants disent avoir du mal à remplir leur mission. C'est important de discuter avec les nouveaux arrivants pour les connaître, leur expliquer le fonctionnement de la prison, tester une éventuelle fragilité psychologique. Mais comment voulez-vous faire tout cela quand vous avez 30 nouveaux arrivants en un week-end? On produit de la souffrance, on produit de la récidive. En fait, pour ceux qui dans le chat expriment les traditionnels, on est habitué hein, sur le sujet, mais il n'a qu'à pas être méchant, mais il n'a qu'à pas être en prison, mais on a qu'à les envoyer au Club Man aussi tant que vous y êtes. Il faut que vous compreniez cette phrase. En prison aujourd'hui, on produit de la souffrance et on produit de la récidive. Et je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas compris tout à l'heure, la prison, la peine de prison, c'est une peine de privation de la liberté. L'objet de la prison, c'est pas de faire vivre l'enfer aux gens qui sont en prison. Et malgré tout, on a les « ils ont merdé, ils assument point »,« la prison en France, c'est le Club Med déjà », quelqu'un qui a littéralement pas écouté l'article. Hein, c'est les méchants arrêtés d'être méchants, quoi. C'est pas grave. On met une petite graine dans l'esprit de ceux qui sont sur cette belle ligne bien classique du « oh, ben, hein, ils n'avaient qu'à pas aller en prison ». Voilà. En tout cas, c'est l'avis de ces médecins, quoi. Si vous pensez que c'est le Club Med, lisez le livre de notre cher président. Ah non, pas encore le livre de Sarko en vrai. Ah non, stop. Déjà, il y a de la pub partout dans les journaux. Je vous lis. Merci Minto. Merci pour ton message Minto8. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui tiennent ce discours... C'est pas le gars qui est au café du commerce et qui a un avis sur tout. C'est les gens qui bossent dans les prisons. C'est les syndicats de salariés de gardiens de prison. C'est les médecins qui bossent dans les prisons. Bon, après, vous avez le droit d'estimer que ces gens se trompent, mais en tout cas, c'est leur avis à eux, quoi. Merci Darsaliot, tu régales. Merci pour les 5 abonnements offerts à la commune. Merci du soutien. Merci Oscar. C'est pas toujours facile, mais on l'essaye. Je vous lis, je suis en train de vous lire. D'où ce petit silence, pardon, ceux qui nous écoutent en podcast audio, parce que parfois j'ai des petits temps morts qui ressemblent à des siestes, hein, des mini-siestes, mais je sais pas ce que je vous lis. Il faudrait mettre une petite musique en vrai pour ce genre de moment. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. On va rester avec la croix pour un exercice très étrange. Parce que je vais pas vous lire une histoire d'info d'actualité, je vais vous lire juste un texte. Qui, je crois, est écrit par un écrivain, et le journal de la croix, c'est un journal que j'aime bien, pour ces raisons notamment. C'est un journal parfois qui donne, qui ouvre ses colonnes, ses pages à quelqu'un qui va dire quelque chose. C'est pas une actu, c'est pas une info, c'est juste une histoire. Et je vais vous lire ce texte d'une traite, sans m'arrêter, parce que je l'ai trouvé très beau ce matin. Et donc c'est un texte qui est signé Grégoire de la Cour. Certains connaissent dans le chat, Camille me dit que c'est un très bon écrivain, effectivement. Et on va le lire tranquillement.
Ok.
Vous êtes prêts? Je vous ai mis le sommaire. Ouais. L'article s'appelle « Le jour où Nicole est morte ». Juste avant qu'un formidable orage ne s'abatte sur Nice et ne fasse comme le coup de pied d'un enfant affole une fourmilière, fuir auteurs et visiteurs du salon du livre cette année-là, une lectrice s'approcha timidement. « Je travaille dans une unité de soins palliatifs, dit-elle. J'aimerais créer une bibliothèque. La direction ne me donne pas de budget au prétexte que les patients n'auront pas le temps de finir les livres. » Je ne lui laissais pas achever et lui offris aussitôt un de mes romans, puis m'engageai à ce qu'un autre auteur fasse de même, qui lui-même en solliciterait un autre, et ainsi de suite. Bref, je mis au point une sorte de Ponzi de la générosité. Une quinzaine de jours après, Nathalie, c'est son prénom, dut refuser des livres faute de place, mais l'histoire n'est pas là. Quelques mois plus tard, elle m'invita à venir rencontrer ses patients. Donc on est dans une unité de soins palliatifs, hein, pour des gens en fin de vie, dans la clinique, et à la faveur d'un séjour dans la région, m'y rendit avec grand plaisir, même si une unité feutrée de soins palliatifs n'est pas tout à fait une partie de plaisir. On en connaît l'issue pour chacun. On soupçonne les peines et les frayeurs, les adieux qui s'éternisent, les doigts qui tricotent les derniers mots au creux de la main d'un compagnon, d'un enfant, d'un qui vivra après nous. Nathalie me fit passer de chambre en chambre, les patients éteints s'illuminaient soudain d'un sourire, ravis que cette visite qu'ils attendaient depuis plusieurs jours, depuis qu'on leur avait fait la lecture de La liste de mes envies, qui est un des romans de l'écrivain. Une patiente malicieuse me lança même « J'ai tenu bon pour vous, vous savez ?» Et mon cœur fit des siennes, mais ne craqua pas. Je concède que dans ce genre de situation, je suis assez sentimental. Nous discutâmes, elle et moi, un petit moment. Elle me fit asseoir sur son lit. Me dit qu'elle attendait que son fils, qui vivait en Martinique, arrive enfin pour pouvoir partir. « Vous ne tenez pas que pour moi, alors, la taquinai-je. C'est vrai aussi, répondit-elle espiègle. « Mais je vous connais bien, vous les hommes, vous aimez tant penser que vous êtes le plus important. » Et de nouveau, je trouvais injuste que la vie s'enfuit de gens qui en débordent. Mais ce n'était pas encore Nicole. La voici. Dans le couloir, la porte d'une chambre était fermée. Nathalie m'expliqua que c'était celle de Nicole qu'on lui faisait sa toilette, que cela prenait du temps, son corps était si menu et comme du verre pouvait se briser. « Elle va être très déçue de ne pas te voir », se lamenta-t-elle. « Je reviendrai », proposai-je, et mon ami eut un sourire triste et je compris. Quelques visites encore, certaines plus laborieuses que d'autres, puis je dus partir. Le lendemain, j'étais déjà à Paris, dans l'agitation du boulot, les campagnes à créer pour un antiride et un champagne. Les choses sont parfois ironiques. Au cœur de l'après-midi, alors que nous débattions d'un concept pour l'antiride... Donc l'écrivain, il travaille dans la pub, c'est ça aussi? Un coup de fil. Nathalie. Je décroche aussitôt. C'est Nicole, me dit-elle. Elle s'en va. Elle aimerait tant te parler, t'entendre. Est-ce que tu veux bien? L'émotion m'étouffe, oui. Je devine alors à son souffle qu'elle s'est mise à courir dans le couloir. Je l'entends crier. C'est Grégoire, Nicole, il est là au téléphone. Voilà qu'elle est dans sa chambre à présent, qu'elle me chuchote, je te la passe. Ah, je ne t'ai pas dit, mais elle ne peut pas parler. Carcinome sous-glottique. Soudain, j'entends la respiration de Nicole, ce souffle qui s'amenuise. Cette eau qui se retire, comme une marée basse. Boueuse et sombre, autour de moi, le silence s'est fait. On devine que quelque chose d'important se passe. Et je me mets à parler à Nicole que je ne connais pas. Nicole que je n'ai jamais vue, je passe un long quart d'heure à bavarder, à l'étreindre avec mes mots. à la retenir. Ne me demandez pas ce que je lui ai dit, je n'en sais rien. Je n'en sais toujours rien aujourd'hui. J'ai essayé juste de ne pas pleurer, de ne pas me ratatiner, de garder mes bras ouverts, d'être là. Puis je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit à bientôt. Je lui ai dit que je l'aimais. C'est très beau ce que cet écrivain fait, en vrai, c'est un moment incroyable. J'ai accroché et mes larmes ont jailli, je me suis isolé à l'agence, mon corps tremblait d'un froid nouveau qui, étonnamment, a fini par me réchauffer. Plus tard, Nathalie m'a rappelé. Nicole est partie quelques minutes après ton coup de fil. Elle souriait. Un livre m'avait conduit à elle, l'audace d'une femme et mon cœur d'artichaut m'avaient conduit à elle. Le jour où Nicole est morte, j'ai su qu'il y avait en nous une forme d'amour capable de répondre à la fameuse phrase d'Henri Calais « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes, par celle-ci secouez-moi, je suis plein de joie. » C'est beau, hein ? C'est pas un article, c'est pas une info, c'est pas une actu, mais ce journal est assez étonnant, parce que parfois, dans cette dernière page de la croix là, ce qui s'appelle la dernière page, il y a des textes un peu étranges. Ça parle de tout, de rien, d'un truc de société, de la vie, de la mort. Je le lis tous les jours, c'est pas toujours aussi fort, mais là c'était vraiment incroyable. Donc c'est pas une actu, mais je me suis dit, nous qui tous les matins listons plein de choses problématiques, plein de choses qui ne vont pas dans notre monde, bah, je trouve que c'est bien aussi de se rappeler qu'il y a aussi des moments comme ça où il y a des... à la fois c'est immense ce qu'il a fait et c'est pas grand chose, hein, c'est juste un coup de fil que cet écrivain a passé à une personne qui était en fin de vie, mais pour cette dame manifestement ça a été important, quoi. Donc je ne connais pas ce monsieur Grégoire Delacour. Certains connaissent ce qu'il écrit, le roman qu'on a évoqué là, et m'ont dit que c'était bien, mais en tout cas, c'est bien de se rappeler que de temps en temps aussi, nous sommes capables de ce genre de choses, quoi. Et je suis sûr que dans... Vous êtes quelques milliers là ce matin entre Twitch et TikTok, et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui font ce genre de choses, qui l'ont déjà fait, qui le font ou qui le feront, quoi. Voilà, et ça m'a fait penser à ça. On est tous plein de contradictions, on est tous un peu égoïstes. Mais pour la plupart d'entre nous, on essaie de lui faire du mieux qu'on peut. Et j'ai l'impression que ce monsieur, ce jour-là, il a vraiment fait du mieux qu'il pouvait. Bravo, monsieur Grégoire Delacour. Bon, on va pas passer toute la matinée dessus, parce que c'est un petit peu triste. On va parler de choses de plus terre à terre. On va parler de jeux vidéo. On en a parlé longuement au début de cette revue de presse pour féliciter le studio qui a créé Expédition 33 Clair Obscur, puisqu'ils ont été distingués d'une façon hallucinante aux Game Awards cette nuit à Los Angeles. Mais dans les échos ce matin, il y a un autre article sur le jeu vidéo, sur les conséquences de l'IA sur l'univers du jeu vidéo, ce qui est hyper intéressant en vrai. Merci MMG. Merci MMG. Pardon d'avoir fait pleurer certains avec l'article précédent, mais c'était quand même très très beau. Alors, merci Lancelot, merci Oman Etienne, merci Luzark. L'IA générative embrase le monde du jeu vidéo. Ces dernières semaines, les polémiques se sont multipliées sur fond de crainte pour l'emploi dans un secteur déjà fragilisé. Est-ce que l'IA va encore supprimer des emplois dans le secteur du jeu vidéo qui souffre déjà pas mal en ce moment ? C'est le sujet inflammable du moment dans l'industrie vidéoludique. Des développeurs indépendants aux patrons de grands groupes, en passant par les salariés et les joueurs, le monde du jeu vidéo ne cesse de se déchirer sur l'IA générative. Le dernier gros bad buzz ayant cristallisé ces débats clivants est l'œuvre du dirigeant de l'éditeur Nexon, dont le jeu Ark Raiders, dont on parle beaucoup, est un carton. Alors que le titre subissait une avalanche de critiques en raison de l'utilisation d'outils d'IA pour la génération de voix au détriment de comédiens de doublage, Jung-Hoon Lee a riposté il y a un mois en déclarant que toutes les entreprises de jeux vidéo utilisent l'intelligence artificielle. Mais si tout le monde travaille avec des technologies similaires, la véritable question c'est comment survivre, a-t-il ajouté. Loin de circonscrire la controverse, ses propos l'ont attisé et entraîné de nouvelles réactions en cascade. Quelques jours plus tard, Ubisoft a essuyé une polémique de moindre ampleur en raison d'un visuel supprimé depuis, généré avec l'IA et présent au sein du jeu Anno 117 Pax Romana. Le principal frein à l'adoption de l'IA générative par la studio est leur crainte de la réaction négative des joueurs, fait valoir Jean-Baptiste Birez. Les joueurs occidentaux réagissent très mal, ce qui amène les entreprises américaines et européennes à y aller prudemment. Mais pendant ce temps, de nombreux groupes chinois de jeux vidéo y vont à fond. Aujourd'hui, l'IA est régulièrement présentée comme une technologie permettant de réduire les coûts d'un jeu, d'aller plus vite dans la conception, ce qui se fait généralement au détriment de la qualité, estime Nicolas Canas, qui est cofondateur du studio Shiro Games. Mais le jour où elle permettra de faire de meilleurs jeux, merci Sahel, les joueurs la percevront sans doute d'un autre œil. Dans l'industrie, les craintes sont aussi vivaces sur le front de l'emploi, l'industrie du jeu vidéo. Alors que près de 40 000 licenciements sont à dénombrer depuis 2022, le jeu vidéo est une industrie de salariés passionnés, souvent précaires, ce qui explique que le sujet soit si sensible avec les potentielles coupes dans l'emploi à venir en raison de l'IA. Mais selon Kevin Kuipers, cofondateur de Gamekult et Molotov, on se trompe de débat. Oui, de nombreuses tâches automatisables et certains métiers fastidieux comme testeur QA, assurance qualité vont voir cette place effectivement prise par l'IA en grande partie, mais le cœur de ce qui fait un jeu vidéo va rester, il y aura toujours besoin de l'humain derrière. C'est son avis à lui. Début novembre, le géant japonais Square Enix a fait valoir qu'il avait pour objectif d'automatiser via l'IA 70% des tâches de debug de ses jeux d'ici à la fin 2027. Reste que l'ensemble des entreprises est loin d'appliquer la même stratégie. Nos équipes se servent de l'IA, mais de manière anecdotique, pour de l'assistance, pour le codage. Nous sommes spécialisés sur des titres de stratégie très spécifiques et pointus où le game design, le gameplay sont centraux, dit Nicolas Canas. Et d'ajouter, l'IA permet d'automatiser la production de masse, mais n'a aucun intérêt à ce niveau-là, car elle ne sait pas concevoir ou imaginer des mécanismes fun. En revanche, je pense qu'elle va être vite d'une grande utilité pour les gros studios qui font des triple A, les gros budgets, avec des mondes ouverts immenses qui demandent beaucoup de ressources en matière de décors comme de personnages secondaires. Un fait est certain, alors que ces dernières années, les moteurs de jeu comme Unreal et Unity ont permis à de nombreux petits studios de concevoir des titres très aboutis pour un coût limité, l'IA va encore amplifier cette lame de fond. Les outils d'IA d'aide à la production vont se répandre et cela va encore abaisser les barrières à l'entrée. On va voir de plus en plus de gens peu expérimentés et sans formation spécifique créer des jeux et le volume de sorties va considérablement augmenter, expose Cédric Lagarrigue. Old Linux, le journal, c'est Les Échos, c'est page 24. Avant, il fallait compter 500 000 euros pour un petit jeu. Maintenant, vous pouvez le développer sur votre temps libre depuis votre chambre, dit Cédric Lagarrigue. Bien sûr, avec l'IA, il va y avoir énormément de déchets, mais aussi quelques jeux qui vont marcher et prendre des parts de marché aux gros éditeurs qui ont, eux, des frais fixes énormes. Beaucoup vont devoir repenser leur modèle. C'est pas inintéressant. Another Fox, pour avoir travaillé dans le QA, l'IA ne va absolument remplacer personne. La confidentialité omniprésente dans le processus est incompatible avec l'IA, possible fuite de données. Par ailleurs, les seules applications de l'IA dans ce processus, sans ce processus, ne pourraient être que pour aider dans la rédaction de bugs pour l'éditeur, le client. Avec l'IA, les PNJ seront peut-être moins débiles, dit Ocharou. Salut Ariette, c'est bien de dormir, tu as raison. MMG dit perso, je me dis aussi que si j'ai plein d'idées créatives à exploiter dans ma tête, utiliser une IA me permettrait d'avoir un résultat beaucoup plus rapidement moyennant les corrections. L'IA, c'est aussi top pour les jeux indés qui n'ont pas beaucoup d'argent pour notamment traduire leurs jeux, par exemple. J'ai vu ton message tout à l'heure, frère Toc. Hein, les gens qui perdent leur job se trompent de débat avec un petit kappa. Tu vois que tu comprenais pas la phrase. J'entends. Hello, je suis 3D character artist, me dit Whooper. Et déjà que le secteur se porte mal dans le jeu vidéo. Mais alors avec l'IA, les entreprises prennent des raccourcis, hélas. Et je suis d'accord, au détriment de la qualité et de la partie humaine. C'est ça que tu disais? Et les juniors sont les premières victimes. Il y a toute une série d'articles depuis quelques semaines qui disent que, pas seulement pour le secteur des jeux vidéo, l'entrée sur le marché du travail va se compliquer encore plus pour les juniors. Salut Pantoufle. Pour les juniors, ceux qui rentrent dans l'entreprise avec beaucoup à apprendre, parce que les tâches subalternes, les tâches pas trop compliquées qu'on leur confiait d'habitude au début à ces juniors, à ces entrants, ces nouveaux entrants, pour se former, pour devenir les responsables de demain, de plus en plus vont être parfois confiés à l'IA.
Waouh!
Ça, c'est. T'entends, je vois passer des articles là-dessus, c'est bien flippant. Salut beginner, bonne journée. Voilà. Et puis alors, donc pessimisme ici avec l'article en haut à gauche, et puis je vois un article qui sont un peu plus optimistes en bas à droite. IA et cloud gaming, les deux moteurs de croissance espérés dans le secteur. Bon, tiens donc, après la période phase des confinements, hein, la crise sanitaire a été une parenthèse incroyable pour l'univers du jeu vidéo. Merci Franck pour ton raid, merci Franck Miller. Vous étiez sur quoi Franck? Après la période phase des confinements, en pleine pandémie, la croissance a nettement ralenti dans le secteur du jeu vidéo, vous le savez. Hein. Elle pourrait réaccélérer grâce à l'usage des nouveaux outils IA. Donc là, c'est un peu l'analyse inverse. Star Citizen, excellent. Le printemps économique du jeu vidéo est-il bientôt en vue? C'est le constat que dresse le Boston Consulting Group dans sa dernière étude relative à ce secteur. On voit les premiers signes de la reprise après une période compliquée, fait valoir Jean-Baptiste Bérez. Après avoir vu sa cadence de croissance divisée par 2 depuis 2022, la fin des périodes de confinement, à 4% de taux de croissance annuel, celle-ci va reprendre du rythme entre 2026 et 2030, ce seraient les projections, pour atteindre 6%, ce qui n'est pas ridicule. Résultat, le secteur devrait peser près de 300 milliards de dollars en 2027, 350 milliards en 2030. Ce sont des projections, hein, ce sont des analyses. Une bonne nouvelle pour l'industrie, alors que la casse sociale a été très lourde depuis 2022, avec près de 39 000 licenciements recensés à l'échelle mondiale. C'est intéressant parce que là, c'est l'analyse inverse, comme quoi l'IA va permettre de développer le secteur. Lisons. L'IA générative va être au cœur de ce redémarrage économique du secteur. La technologie commence vraiment à se diffuser dans l'industrie, souligne Jean-Baptiste Birez, j'espère que je prononce bien. Je vais vous dire qui c'est, il est directeur associé au BCG. Hein? Lors du troisième trimestre, plus de 20% des nouveaux jeux lancés sur la plateforme de vente de jeux Steam ont été faits en partie avec de l'IA. Plus globalement, le BCG avance dans son rapport que 88% des créateurs de jeux se servent de l'IA générative pour concevoir des éléments graphiques. Un niveau qui tombe à 18% pour ce qui a trait aux aspects narratifs, à 16% pour la voix des personnages et le son. L'IA va avoir un impact direct en matière de productivité, ce qui va encore augmenter quoi ? Le volume de sortie de titres et la concurrence dans les années à venir. Ah oui, non, finalement, c'est pas totalement contradictoire en fait. C'est les mêmes infos, mais analysées différemment par rapport au premier article, vous avez raison. Ouais. Le marché grossit égal, me dit Greenlog. Le secteur rapporte plus d'argent, pas le secteur emploie plus de gens. Oui, vous avez raison. C'est pas forcément contradictoire. Osmelou, tu avais raison. Tu avais raison. Par un jeu de vase communicant, les experts du BCG estiment que ce phénomène devrait mettre du vent dans les ailes du cloud gaming. Un pan du secteur scotché sur la piste de décollage depuis plusieurs années est marqué par le fiasco de Google avec Stadia fermé en 2022. Il y a toujours un problème de profondeur de catalogue avec les offres de cloud gaming qui ont été lancées. Mais la technologie en matière de serveur pour que l'expérience de jeu proposée soit agréable est désormais au niveau. Et c'est le sens de l'histoire qu'émerge un Netflix dans le secteur. Bon, je ne sais pas s'ils veulent parler des jeux qu'il y a sur Netflix. On en a parlé récemment. Je lui ai dit, hey, les gars, moi j'ai Netflix comme plein de gens. Il y a des jeux sur Netflix là. Vous y avez joué, vous, parce que moi, non.
Ouais.
Certains m'ont dit, ouais, c'est cool, il y en a des cools.
Les gars,
j'ai essayé de jouer à des jeux vidéo sur Netflix. Mais c'est injouable. Sur la tablette, là. Il y a des purs jeux, là, mais c'est. Une tablette, c'est pas fait pour jouer à des jeux vidéo. J'en ai téléchargé un. C'était nul. J'en ai téléchargé un deuxième. C'était nul. Alors, je sais pas si je sais pas m'y prendre. Je sais pas, j'ai téléchargé un jeu de catch. Un jeu de catch, bon. Et il fallait donc. Donc c'est tactile, quoi, sur l'iPad. C'est injouable. Injouable. Et pourtant, y a des jeux de fou, hein. Mais. Voilà, c'est. Ah, tu peux connecter des manettes. Ouais. Alors là, oui, d'accord. Mais là, comme sinon. Ouais. Ouais. Donc, pas convaincu pour l'instant. Peut-être t'as vu une petite manette connectée alors. Ouais. Bon, bah pour l'instant, pas convaincu. Donc, selon le BCG, le volume de joueurs abonnés au service de cloud gaming devrait passer de 5 millions cette année à 26 millions en 2028 et 65 millions en 2030. En valeur, ce segment du marché passerait de 1,4 milliard en 2025 à 10 milliards dans 3 ans et à 18 milliards en 2030. Bon, voilà. Donc, IA cloud gaming. Bien pour le marché, quoi. Mais est-ce que c'est bien pour les emplois? Ça, c'est autre chose. Je joue au Xbox Cloud Gaming sur tablette avec manette, c'est cool. Donc, avec manette, ok. Tu peux utiliser les manettes de Xbox ou de Play, ça marche bien. Mais attends, mais je la plug comment sur ma tablette? Les gars, manette de Xbox, ok? Ah! En Bluetooth? Oh, je suis putain le vieux. Moi, j'aime bien le filaire, moi. Oh, je suis con. Je me dis, mais. Mon USB là, je le mets où sur ma tablette? Putain. Et au moment où je pose la question, je dis bah oui. Ah ouais. Ok, d'accord. Il y a aussi des adaptateurs USB to USB-C? Ah bah oui, c'est vrai. Ok, d'accord. D'accord. J'aime bien filaire moi, parce que le niveau auquel je joue, il me faut une stabilité hors pair, tu vois, on est sur l'e-sport ici, quoi. Ok. Ah, on va finir par ça. Mais Samuel, tu. Hein, quoi? Non, mais non, non. Non. La pub Intermarché, c'est vous qui m'en avez parlé hier. Je dis que du truc, là. Oui, Samuel, t'as vu la pub Intermarché? Gestion du sommaire. Ouais, Samuel, t'as vu la pub Intermarché? Incroyable. Qu'est-ce que vous me racontez de la pub Intermarché? Eh ben, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah, ok. J'avoue. J'avoue. Cette pub Intermarché émeut le monde entier. Bon, le monde entier. Le monde entier? Intermarché, c'est en France, non? Qui raconte? Bon, déjà le titre. Non, mais oh! Le monde entier. Le monde entier? Non, c'est vrai? C'est vrai? Le monde entier? Tout le monde en parle? C'est vrai? Au Kazakhstan, ils en parlent? Aux États-Unis, ils sont à fond dessus, elle cartonne? Ok! Ah, les réseaux sociaux? Ah, ok. Non, pas monde entier. Non, pas monde entier. Oh, j'en peux plus. Hein, cette discrimination anti-vieux, là. Le monde entier. All over the world. C'est dingue, ça. Donc, Illogic Studio, c'est la France, studio français, a recouru les techniques artistiques traditionnelles. IA, no IA. AI, no. Pour réaliser ce court-métrage commandé pour Noël avec un message, nous avons tous une raison de mieux manger. 31 millions de vues sur le tweet. Pop, 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 pop. Le mal-aimé fait désormais l'unanimité, diffusé depuis lundi à la télévision avec la chanson de Claude François en fond sonore. La publicité d'Intermarché pour les fêtes de fin d'année connaît une résonance virale sur les réseaux sociaux qui lui permet de franchir les frontières. Ah ouais. Le nombre de vues ne cesse de grimper. Voilà. Bon, vous savez quoi? On va voir l'image. Hein. Allez, let's go. On va voir. Hein. Ta-da, ta-da. C'est sur YouTube, ça, non? Ta-da-da-da. Maman! Non, non, non. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas te parler. Excusez-moi, c'est Claude François, des petits. Non, 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 non. Intermarché. Plume Intermarché, le mal-aimé. Ok, je l'ai. Les coulisses de la pub. Non. Intermarché, compte de Noël. Ben, je suis sur la chaîne YouTube d'Intermarché.
Ah
non, ça, c'est autre chose, ça. J'ai pas la bonne. Bah, ben, si, pourtant.
Pas là-bas.
Ah, il y a une. Ah, y a... au début, il y a le. Ah, les... si, des petits bonshommes, si, c'est ça. Ça commence par un repas en famille. Ah oui, ça commence pas par le dessin animé, ok. All right. Alors. Hop là, je vous l'avais. TikTok, vous avez le droit aussi. Vous êtes gentil, on vous aime. Même si TikTok aime pas trop qu'on passe des vidéos. Hein, ça va faire chuter le nombre de viewers. Eh bon, c'est pas grave, on est des punks à chat, de toute façon. Paf. Et paf. Et paf. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a du son dans cette histoire? Ouais, est-ce qu'on a du son ici? Ouais. Vous êtes prêts?
Lulu, tu veux un cadeau? Mais...
il a peur des loups.
Ah, mais il faut pas. Parce qu'à la base, le premier loup, il vivait dans la forêt et il avait pas de copains.
Eh ben, sympa.
En même temps, si tu mangeais pas tout le monde...
Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange?
Ah, déjà...
Et c'est pour ça que...
Ok, masterclass quand même. C'est la deuxième fois que je la vois et ouais, j'avoue que c'était fou quoi. Zéro IA là-dedans. Zéro IA là-dedans. Ouais. Et c'est français, mesdames et messieurs. Eh ouais, la magie de Noël. Attendez, je vous mets tout. Tac. Voilà, vous avez tout. Donc, le Parisien revient ce matin sur ce c'est, ah ouais, certains ne l'avaient pas vu. Non, c'est bien foutu, ouais. Et ce que j'avais pas vu, moi, c'est le regard à la fin entre le papa et la maman. Ça m'avait échappé, en fait. Et même ça, la scène de la fin, là, je ne sais pas si vous avez vu le regard de la maman vers le papa qui raconte l'histoire. Je l'avais raté la première fois. Et en fait, waouh. Ouais. Alors... donc j'ai un article là-dessus. Oui, la voix du loup, c'est Fred Testo, quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous avez raison. Donc, nous avons tous une raison de mieux manger. Le message délivré dans ce film d'animation de 2 minutes, c'est une pub. Hein. Salut Drakeos, merci pour ton raid, hein, tu régales. Qui met en scène un loup, donc ce film d'animation de 2 minutes 30. Menace pour les animaux qui l'entourent et qui se sent profondément seul et attristé d'être fui. D'où la chanson de Claude François, Le Mal-aimé. Une discussion avec un hérisson va tout changer. Et s'il se nourrissait dorénavant que de champignons et de carottes plutôt que de ceux avec qui il partage son lieu de vie. Progressivement, le loup se met à la cueillette, change ses habitudes alimentaires, au point d'être finalement accepté au banquet de Noël. Vous l'avez vu la vidéo comme moi. Cette séquence animée, qui l'a fait? Hein. C'est le fruit du travail d'Illogic Studio, voilà, studio français, mesdames et messieurs, qui s'est fait approcher par Romance, la société de communication d'Intermarché. Explique Théophile Dufresne, qui est le cofondateur de cette société installée à Montpellier. À Montpellier, ils sont vraiment très très forts. Hein. C'est beau Montpellier. Et co-réalisateur du film. L'enjeu fixé par l'enseigne de grande distribution, revisiter le conte du grand méchant loup et lui apprendre à mieux manger. Habitué des représentations d'animaux, Illogic Studio s'adjuge l'appel d'offres. Voilà. S'annonce, s'amorce un travail de 6 mois. Je trouve ça assez rapide en vrai. 6 mois pour faire ça. Moi, je pensais que c'était plus de temps, non ? À partir du cahier des charges dressé par Intermarché, les artistes composent un storyboard, une sorte de BD faisant office de trame. Ensuite, il faut créer les décors, les personnages, les animés, mettre les lumières, les textures. Ouais. Si on a choisi ce traité graphique qui tend vers l'illustration, la peinture, c'est pour évoquer le conte de l'enfance. Alors, 1 an pour produire la pub et 6 mois que pour l'animation. Ok, d'accord. Jusqu'à 70 artistes y ont travaillé pour mettre bout à bout les scènes, contingent bien supérieur à celui d'ordinaire d'Illogic Studio. Un film aussi long, aussi ambitieux, ça nécessite forcément de grosses équipes. 70 personnes au plus haut du projet. Ce qui n'est pas tout le temps le cas en publicité, hein, dit l'agence. Hein. Voilà. Testo, Fred Testo, humoriste, comédien, le GOAT, a accepté de donner sa voix au loup. L'IA est maintenue à l'écart du processus artistique. Hein, à l'avenir, tout au mieux, l'IA sera un outil. On revient à notre débat précédent, c'est très intéressant. L'IA sera un outil au service des humains, des artistes, veut croire en tout cas le réalisateur. On est persuadé que les machines ne remplaceront pas la créativité de vrais humains, toute la sensibilité, l'émotion que peuvent faire passer de vrais artistes dans leur travail. C'est vrai que quand on voit la qualité de ce qu'on vient de voir, le but c'était de véhiculer de l'émotion. Le co-réalisateur du court-métrage n'avait cependant pas anticipé que certains internautes verseraient une larme en voyant le loup se rabibocher avec ses amis de la forêt. Hein, on ne s'attendait pas à un tel partage sur les réseaux, reconnaît-il. On sait que les films Intermarché sont en général des films qui sont suivis, qui font pas mal de bruit, mais et peuvent même gagner des prix. Mais avoir autant de réactions, autant de beaux commentaires sur Internet, c'est une belle surprise et on est plutôt fiers. Pour le studio de Montpellier, c'est Noël avant l'heure. L'accueil du public constitue une super récompense. Certains me disaient que la peluche qu'on voit au début, sur la scène de Noël, oui, le film a super marché, bien joué. La peluche n'est pas en vente, mais que tout le monde la veut, tout le monde la réclame. Ouais. L'accueil du public constitue une super récompense, prouve que l'animation c'est universel, ça peut toucher le monde entier, peu importe son pays d'origine ou sa langue. Si les sollicitations médiatiques pleuvent, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact économique du mal-aimé sur l'activité future de ce studio, Illogic Studio. Ouais. La société entend saisir l'opportunité pour continuer à croître sur le marché de la pub, mais pas seulement. Elle planche déjà sur les projets de court et de long métrage. Pas mal, hein. Bon, c'est cool. Bon, bravo à l'agence, bravo au studio, bravo à Intermarché, ça leur fait une belle pub en vrai. Voilà. En même temps, les gars, ils ont parié sur un projet sans doute ambitieux, sans doute un peu coûteux. Ils ont... Ouais, tant mieux pour eux, hein. Ah, on me dit que la... Johnny me dit que la peluche va bientôt être en vente. Ok, dinguerie. Ah, Johnny me dit je suis pute. Ok, donc c'est pas sûr. Ok. C'est génial, hein. Bon, c'était un plaisir, les amis. Merci pour ce matin. Ça stream. Ça stream de fou. Allez, tac. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi ? Le sommaire, vous n'avez plus besoin. Tac, tac, tac. Ça stream de fou. On se retrouve ce soir. Pas tôt, alors je m'en veux parce que je stream trop tard le soir. Normalement, je devrais streamer l'après-midi, je devrais lancer à 18h, je devrais lancer à 19h, je devrais. Et je lance à 20h30, 21h, moi. Mais parce qu'il y a la famille. Il y a vite famille. Et j'aimerais être avec vous plus tôt. En vrai, ce serait plus cohérent de lancer mes streams le soir vers 19h. Mais ne pas dîner avec les enfants, avec Hélène, ça n'a aucun sens, en fait. Donc, même si je vous aime beaucoup, même si j'aime beaucoup mon métier d'aujourd'hui. Eh ben, tant pis. Voilà, mes lives sont un petit peu tard. Donc, rendez-vous ce soir, je pense, à partir de 21h, 21h30. Est-ce qu'on fait du Valo, du Skyrim, du LOL? Peut-être du LOL, Sugar, c'était toujours là. Hein? En tout cas, prenez soin de vous. TikTok, je vous embrasse. On est vendredi, donc sur TikTok, ça revient lundi matin. Je vous rappelle que la revue de presse, c'est tous les matins, du lundi au vendredi. En live sur Twitch et TikTok, depuis 5 ans sur Twitch, depuis la rentrée sur TikTok. Voilà. Mais il n'y a que la matinée Etienne, tous mes autres lives. Ok, Sugar. Comment ça, soirée d'anniv? C'est ton anniversaire, Sugar? Sugar, c'est son anniversaire aujourd'hui? Ok. Sugar, son anniversaire? Oui? Est-ce qu'on peut tous souhaiter un bon anniversaire à Sugar Frog, l'un des modérateurs de cette chat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Bon anniversaire, Sugar. Incroyable. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, oui. Donc, sur TikTok, il n'y a pas les live gaming. Venez sur Twitch, n'hésitez pas ce soir. On sera heureux de vous accueillir. Et puis, on se retrouve donc ce soir. Dimanche, vous avez un simplet. Vous le voyez sur ce visuel avec l'ami Zach Nani qui me fait découvrir le dernier Call of Black Ops 7. Ça va être sympa. Il y aura sans doute aussi un stream samedi soir de gaming. Des bisous. Et puis, il y a un MVP aussi. Il y a un MVP mercredi prochain. Voilà, un super MVP, avec Tatiana qui va revenir, je crois qu'il y a Henri Tran aussi, il y a Ludo, et on parlera notamment de la difficile adéquation, ça c'est passionnant, entre le marché de l'emploi, du travail, et les formations. Hein. Il y a plein de gens qui arrivent avec des diplômes, des bacs plus 5 aujourd'hui sur le marché, qui ne trouvent pas d'emploi en lien avec leur formation, c'est un enfer, et on a décidé d'en parler la semaine prochaine. Voilà. MVP, Ma Vie Pro, c'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Et c'est 2 fois par mois, c'est le mercredi. Voilà, on se retrouve mercredi pour ça. TikTok, je vous quitte sur Twitch, on va faire un raid comme tous les jours, bien sûr. Des bisous TikTok. Ciao, ciao. Ami Twitch, nous, on va faire un raid, bien sûr. Qui est en live? Merci, Tartine. Alors, qui est en live? Ok. Bon, en vrai, les amis, il y a l'ami Kamel, Kameto qui est en live. Et vous savez quoi, Kamel, il m'a invité le week-end dernier à son événement là, le train infernal. Et c'était hyper sympa de sa part. Et j'ai passé un super moment avec 99 autres créateurs de contenu. Et je j'ai pas eu l'occasion de le remercier. C'est le. Ouais, c'est Team Fight Tactics, le TFT. Open de Paris TFT en plus. Donc, il est sur place. Il est en React. Bon, on va rejoindre Kamel. Allez, let's go. C'est la porte de Versailles à Paris. La France, mesdames et messieurs. Les meilleurs. Allez, Kameto, Kamel. Voilà. Et bien, dites-lui de ma part, merci encore pour le train infernal de la semaine dernière. OK? Mercredi, c'est à partir de 9h Linux. Ça charge. Moi, je vais déjeuner. J'ai un petit déjeuner pro. Cet après-midi, je bosse un petit peu et on se retrouve ce soir pour du gaming. Ok ? C'est parti. À ce soir, des bisous. On va voir Kamel.
On augmente, on va voir. Ah, je m'en souviens plus des items, hein, gros. Je peux pas ouvrir Google ou quoi ?